Salut les beaux gosses. Summer 15, ça c'est la chanson. Ah, c'est reparti. Ah ouais, je me rappelle ça. Ça c'est la musique triste. Je me rappelle. Ah oui, je me souviens du stream où j'avais joué cette musique-là. Je me souviens. Vous vous souvenez ? Il n'y a pas longtemps. J'en ai les larmes aux yeux. Il n'y a pas longtemps, j'ai lancé un stream. Et je me dis, il faut que je choisisse une musique qui va avec. J'avais tapé Requiem dans ma banque de musique. Ouais. Et oui, c'était pour le stream sur Question pour un champion. Putain, je suis allé, putain. Toujours les premiers qui partent en... meilleurs qui partent en premier. C'est incroyable. Est-ce que j'ai des SMS urgents ? Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ok. Camille Combal. Ça, c'est un mec qui est bien. Ok. On valide. Ok. La cuisine, un live cuisine. Je sais pas. On verra. Ça va, vous ? J'aime bien cette impro. Oui, non, mais sinon, mais en vrai, j'avais pas fait exprès de cette musique. Ça va, vous? Hey, double stream aujourd'hui. Bon, en vacances, on n'est pas trop sur le double stream, on est plutôt sur le... Il y a un héros comme ça, c'est One Punch Only, c'est ça? Non? Il y a un truc comme ça. Là, c'est One Stream Only, normalement, pendant les vacances, famille, tout ça. Et là, c'est double, parce que ce matin, en revue de presse, vu qu'il se passe un petit peu des One Punch Man, voilà. Et vu qu'il se passe un petit peu des choses, là, on a reparlé un petit coup d'Ardisson, on a reparlé de plein de choses, puis on a parlé surtout de ce budget 2016, ce projet de loi, hein, c'est une loi. Hein. J'ai pas encore appelé Yann Barthès pour les réacs, les gars, laissez-moi un petit peu de temps. Qui a gagné le concours de bombe à la piscine? Malo, il est fort. Malo, il est fort. Le projet de budget 2016, projet de loi, donc, voilà, qui sera débattu à l'automne par le Parlement, mais voilà. 2016-2026, 2026. C'est pas grave, c'est. Bon, bah, ok, j'avoue, ce stream a été enregistré il y a 10 ans. Mais comme je suis très fort, il y a 10 ans, je savais déjà que Macron allait gagner la présidentielle, la deuxième, perdre les législatives, les européennes derrière, avoir la mauvaise idée de dissoudre, perdre les législatives, essayer deux, trois trucs, nommer Bayrou, voilà, et qu'il y a un projet de budget très compliqué. Mais comme je suis un peu fort, il y a 10 ans, alors certes, je n'étais pas sur Twitch à l'époque, mais bref, j'ai enregistré ce live. Et comme je suis assez fort, j'ai enregistré des fausses réactes en disant, je sais pas, je pourrais réagir à un commentaire, par exemple, comme oui, Samuel Voyant, par exemple. En 2026, ouais. Donc projet de loi, donc c'est un texte de loi débattu à l'automne. Sauf que là, on va connaître ce qu'il y a dedans, ce que le gouvernement veut mettre dedans, ce que François Bayrou veut mettre dedans. Alors l'enjeu, il est important évidemment, parce que bon, la France ne va pas financièrement parlant, le moral c'est autre chose. Évidemment, on est au top, mais la France ne va pas merveilleusement bien sur un plan budgétaire, financier. On est super endetté, la charge de la dette ne cesse d'augmenter. Donc on nous dit régulièrement bah ça va pas pouvoir durer comme ça quoi. On va pas pouvoir léguer cette dette, cette charge de la dette à nos descendants, puis même à nous-mêmes dans quelques années ça va être un petit peu compliqué quoi. Et là Monsieur Bayrou nous dit bon, il a un peu tapé du poing sur la table, c'est fini, c'est fini, je vais trouver 40 millions. Et puis je vais dire la vérité aux Français. Hein On en a parlé ce matin, il prend une pause un peu historique, François Bayrou, Premier ministre. Il prend une pause un peu historique. Voilà, genre, je regarde l'histoire. J'ai dit 40 millions? Putain, mais je suis crevé ou quoi? Ah, j'ai fait une sieste d'1 heure avec le petit. 40 milliards. 2016, 40 millions, il n'y a rien qui va. Pardon, je sors d'une sieste avec le petit dernier, Solal, là, d'1 heure pour être au top de ma forme. Et résultat, je dis n'importe quoi. Donc, 2026, 40 milliards. Heureusement, comme vous êtes une communauté de goats, vous avez corrigé. Voilà. Et oui, je regarde l'histoire droit dans les yeux, c'est un petit peu ça. Et en gros, il est en mode, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je vais dire la vérité aux Français, même si elle n'est pas bonne à entendre, et ça va couper, et je vais annoncer des économies ou des augmentations d'impôts, et blablabla, et blablabla. Il prend les Français un peu un témoin, en mode, c'est moi ou le chaos, finalement. Voilà. Et puis, si jamais il saute à l'automne prochain, motion de censure, bababam, que sais-je, je sais pas, 49-3 sur le budget ou même motion de censure déclenchée par le Parlement, il saute, mais il pourra dire, écoutez, moi j'ai dit la vérité, les Français sont pas prêts à l'entendre, l'opposition encore moins, et voilà, et c'est moi le meilleur. Et après, il surfe là-dessus et tente de remporter la présidentielle. Bon. Oh, je veux bien, MMG, avec grand plaisir, merci beaucoup. Parce que justement, je me posais la question de savoir sur quelle chaîne YouTube on allait pouvoir choper idéalement le direct de cette intervention devant l'Assemblée. Ça va être, normalement, ça devrait être un peu long. François Bayrou, c'est un agrégé de lettres, c'est quelqu'un qui aime les mots, de formation, si je ne dis pas de bêtises, il est agrégé de lettres. Alors, si c'est celui-là, Sugar, je l'ai déjà. Ouais. Mais j'attends la confirmation de l'MMG qui a regardé ça. C'est YouTube du gouvernement. Ouais. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui parle assez lentement, assez doucement, qui prend le temps. Merci, MMG. Vous êtes des goths, la commu, là. Ah, je l'ai pas reçu encore. Tu m'as envoyé en DM quoi? Ah, tu m'as pas envoyé sur Twitch, tu m'as envoyé sur Twitter peut-être. Tu m'as dit DM. Je vais voir. Ah oui, MG, on se parle plutôt en DM. YouTube gouvernement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est celle que j'avais mise, ouais. Ouais, t'es top. Top. Attends, je vous montre. Tac. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche. Ah, ça marche. Impeccable. M'avertir. Oh. Hey, y a même un décompte. Il y a un drapeau français. 14 minutes et 19 secondes. C'est beau, ça. Voilà. Ah, le son. Quelqu'un me dit qu'il n'entendait pas très bien. Qu'est-ce que je disais, donc, avant Ah, merde, j'ai oublié ce que je disais avant. C'est le premier ministre de la France, 7-7. Qu'est-ce que je disais juste avant de... Oui, qui parlait plutôt doucement. Moi, je l'ai interviewé dans le passé plusieurs fois quand j'étais jeune journaliste, notamment sur iTélé. C'est quelqu'un qui prend le temps. Voilà. Voilà. Bah là, c'est free, là. Il n'y a pas de droit, là, parce que c'est une communication du gouvernement. Donc là, c'est bon, on est OK. Là, on est propre. Ouais. On disait que t'étais beau. Non, ça, c'est un faux, c'est fact. Je vous rappelle qu'on lutte contre les fausses informations ici. Donc les gens qui disent que je suis un BG, attention. Hein. Ça va finir en ban def, ça, parce que je ne supporte pas les fausses informations. Voilà. 45 minutes, c'est prévu, plus intervention. Bah, 45 minutes, ça va en vrai. Moi, j'ai prévenu mon épouse, on a un dîner ce soir. On a un dîner ce soir. Bon, en gros, faut que j'ai cut à 19h. Ça commence à 16h. 45 minutes, on est large. Bon, ça veut dire qu'on va pouvoir. Du coup, on a le temps. Okay. Ce matin, pourquoi ils retirent le chat sur YouTube? Ils ont peur? Je sais pas, on va voir s'il y a le chat. Ce matin, on en a parlé. On a parlé des pistes, notamment. Des pistes. Alors, pas les pistes évoquées par le gouvernement, parce que. Et c'est ça qui rend l'exercice intéressant. Rarement, un projet de budget. Ah oui, le chat est désactivé pour cette diffusion en direct. Oui, vous avez raison, c'est marqué en haut à droite. Le chat a été désactivé pour cette diffusion en direct. Sugar, c'est normal, ça? C'est toujours comme ça? Impossible à modérer? Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Ok. Bon, bah, force au modo chez nous, alors, parce que chez nous, il y a le chat. C'est toujours comme ça? Ah ouais? Ah ouais, c'est pour éviter d'avoir Emodo. Si on y a trop de trash talk, je les comprends, ce serait le Dawa. Ils n'ont pas de modo. Ouais. Ok. Et donc, on disait ce matin, on a évoqué quelques pistes. Alors, pas les pistes officielles, puisque Bayrou, et c'est vraiment ce qui rend intéressant l'exercice. N'a pas communiqué sur les pistes. Il n'y a pas eu trop de ballons d'essai. C'est assez étonnant. Quelque part, il a dramatisé l'enjeu. Il a dit, vous verrez bien. Il a fait taire ses ministres qui commençaient à dire, ouais, on va peut-être aller dans cette direction-là et tout. Voilà. Et vraiment, il a bossé beaucoup, il paraît. Enfin, voilà, il a consulté pas mal. Et il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. Voilà, grosse surprise, exactement le frigo. Voilà. Mais il paraît qu'il y a des petites fuites sur Internet, donc on va aller voir ça. Il paraît qu'il y a des petites fuites, là. Alors, on va voir. Il y a des gens qui croient savoir, là, depuis la fin de la revue de presse, les trucs sont sortis. L'histoire des deux jours fériés, par exemple. Ah, je viens de comprendre. Piste rouge, piste noire, piste cyclable. Je voyais des blagues depuis tout à l'heure, je comprenais pas. Je commente pas toutes les dingueries que je vois sur le chat, quoi. Voilà, là, je viens de comprendre les pistes rouges, les pistes noires. Voilà, un des derniers trucs qu'on a vu, c'est ça, ouais. Le gouvernement envisage la suppression de deux jours fériés. Alors ça, c'est nouveau, ça, on l'avait pas du tout vu dans la presse ces derniers jours. Voilà. Hop. Est-ce que ce sera un jet budgétaire? Est-ce que ce sera une année blanche? Mais une année blanche, ça veut rien dire. Hein, parce que c'est une année blanche, mais il peut y avoir les exceptions d'une année blanche. C'est-à-dire qu'on gèle toutes les dépenses, on n'augmente rien, mais on en augmente quand même quelques-unes. Alors, année blanche, ça veut dire quoi? Donc, s'il parle d'année blanche, par exemple, on va savoir. Est-ce que j'ai un crayon? J'ai un crayon. On va voir de quelle année blanche il parle. Mais en tout cas, ce mot année blanche, on va le guetter. Coup de rabot sur les agences et opérateurs de l'État, ça aussi. Contribution des retraités, ou seulement des retraités les plus aisés. Voilà. Est-ce que c'est une contribution des ultra riches? Est-ce qu'on va taper dans les prestations sociales, dans les allocs, dans l'assurance chômage? Voilà. Voilà. Et là, c'est où l'histoire des deux jours là? Voilà. Et là, nouvelle piste. Arrêtez, piste verte, tout ça là. J'adore. La suppression de deux jours fériés, piste sérieuse, vers deux jours chômés de moins pour les Français. Une source gouvernementale, ça veut rien dire ça. Hein, confirme une information du Parisien et de l'Opinion. Ok. On va voir. Peut-être que les journalistes ne se sont pas trompés. Bonjour, c'est ici pour voir le lancement de candidature 2027 de Samuel Etienne. Chut, c'est un secret. Ok. Enfin, voilà les mots qu'on attend, hein. Jamais vu un centriste aussi extrême. C'est pas faux, Martin, c'est pas faux, Martin. Ok, donc les 2 jours, c'est un peu le dernier truc, hein. Pourquoi je t'appelle Macron? C'est Bayrou, la star du jour, là. Macron, il sert plus à rien. Bayrou, budget. Les réflexes, les réflexes. Les pistes midi libre, il y a 5 minutes. Allez, un petit coup de presse quotidienne régionale, l'excellente. Voilà, l'essentiel. Ouais. Vous pesez plus de 80 kilos, bientôt vous en pèserez un peu moins de 60. Mettez dans vos chaussures le troisième jour, mon pantalon préféré était déjà tombé, j'étais stupéfaite. Ah non, c'est pas le budget, ça c'est une pub. C'est le problème d'Internet, ça. Non, c'était une pub, ça. Bon, c'est bon. Pas super lisible leur site, là. Non, c'était autre chose, ça. Bah c'est ça, c'est le nouveau truc, ouais. Ce matin, on avait, je vous ai laissé la tablette. C'est en relation avec le budget, vu qu'il faut serrer la ceinture, mais bien sûr. Là, je vous ai remis la tablette avec les articles de ce matin. Let's go, let's go. Je vous ai raconté la blague du sandwich corse. Ce matin, on a. C'était la poilade ce matin. Hein. C'était la poilade. Hein. La grosse rigolade. Hein. La blague du sandwich corse. Il n'y en a plus, voilà. Donc ce matin, c'était moi la croix, j'ai trouvé vraiment très propre ce matin sur le sujet. Eh oui, en replay là, vous l'avez en replay. C'est gratuit sur Twitch, sur YouTube, vous l'avez en replay. Quelle piste pour trouver 40 milliards? La fameuse année blanche. Mais quelle année blanche déjà? Auquel on gèle les dépenses publiques, on les augmente pas, on les gèle au niveau de l'année précédente, on les augmente pas malgré l'inflation. Donc c'est. Voilà. Mais. En gros, ça peut rapporter de 5 à 25 milliards. Donc, quelle année blanche? Ça dépend ce qu'on gèle. Est-ce qu'on touche à la CSG ou à la TVA? Bon, là, tu augmentes d'1%, ça rapporte moult sous. Voilà, mais ça touche plein de gens. On s'attaque aux niches fiscales. Niches fiscales, lesquelles? Les particuliers, des entreprises. Année blanche, on n'annexe pas sur l'inflation. Exactement, Benemen, c'est un peu ça, c'est le principe. Hein, est-ce qu'on s'attaque aux niches fiscales, les avantages fiscaux? Certaines niches fiscales, particuliers. Entreprise, les deux. Est-ce qu'on diminue les dépenses publiques? Lesquelles? Lesquelles? Voilà. Voilà. En gros, est-ce qu'on fait des petites mesurettes, des petites économies on tape au fond quoi. Attends, il y a des. Au moment, on a évoqué un scénario fou avec genre 67 milliards d'économies dès la première année, 130 milliards. En 2029, et là on tape, on repousse l'âge légal de départ à la retraite, on fait une nouvelle réforme de l'assurance chômage, bam, 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 bam. Quoi, titre? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ouais. On va voir. Est-ce qu'on va taper sur les plus démunis? Est-ce qu'on va taper sur les classes moyennes? Est-ce qu'on va taper sur les riches? Est-ce qu'on va taper sur les ultra-riches? On tape au fond, ouais, c'est ça, on tape au fond des dépenses, quoi. Hein? Voilà. Vous avez vu, j'ai fait un petit titre un peu chaîne info. Breaking news! Breaking news, ça me rappelle ma jeunesse. François Bayrou présente le budget 2026. La nouveauté, c'est que nous, on commente. Ha ha! Eh oui, c'est la révolution. Eh oui. Avant, on était là devant notre poste de télé, tout seul, ou avec son épouse, ou son meilleur ami, ou son chien. Voilà. Et le chef du gouvernement nous annonçait les trucs et on râlait. Et on était tout seul à râler. Maintenant, on va râler. Le progrès, c'est quoi? On râle ensemble. Là, on est 3424. Hein? Au bistrot? Ben oui, mais au bistrot. Mais d'abord, au bistrot, t'étais un peu bourré. Parce que bon, t'avais les copains, tu partais prendre un café et puis au bout de 10 minutes, t'étais déjà ton deuxième pastis. Donc ta réaction, elle était quand même. Tu rentrais à la maison et tu savais plus trop ce que t'avais dit. Tu savais plus trop ce que tu avais dit. Hein? Et les copains non plus. Si tu avais vaguement le patron du PMU qui le lendemain te disait, dis non, hey, François, t'en t'es une bonne hier soir. Hein? Tu vois? Alors que là, je pense que tout le monde est à jeun là. Bah, quelle heure il est? 15h55. Tout le monde est à jeun là. Je suis capable de louper le début du truc. 4 minutes 34. Et donc on est à Agen, mais bon, voilà. Et puis c'est bon, voilà. Non, pas à Agen, pas à la ville. Et donc c'est bien, c'est bien. Puis surtout, parmi les 3000, 4000 que nous sommes, il y a des gens qui connaissent un peu les sujets. Je suis sûr, dans le chat, il y a des gens qui suivent beaucoup l'actualité, des gens qui sont, voire, qui ont une formation en économie. Tiens, il y a mon amoureuse qui passe. Je me redresse un petit peu, je me mets en mode beau gosse. Oui? Oh, un café glacé? Tu fais un café glacé? Tu vas passer. Vas-y, passe dans la caméra, c'est bon pour l'audience. Vas-y, passe un coup là. Juste un petit bout. Une main. Les gens, ils pensent que tu es une IA. Les gens, ils pensent que tu n'existes pas. Vas-y, attends. On n'a pas vu! Mets ta main. Les gens, ils pensent que tu n'existes pas. On voit pas là. Avance un peu, on voit pas. Non, mais on a vu une. Ça, on n'a rien vu. Ça pourrait être un nugget. Elle existe. Avec plaisir. Hein? Oh, avec du lait. Ouais, c'est gentil. Je suis bien là, je suis au frais là, j'entends Monsieur Bayrou. Ça va être la fête. Elle existe. Comment ça, c'est un faux bras? Mais non, elle existe. Qu'est-ce que je disais? Ça n'est pas très réaliste. Oh, les gars, ouais, j'ai les budgets que j'ai, hein. Nanana. Ah, avant je faisais un autre truc comme ça. Attends, comment je faisais déjà ça? Ah ouais, je faisais un truc là. Attends, comment je faisais déjà moi? Ah, j'ai oublié, je faisais un truc pour détacher le chat à droite, à gauche là. Ah ouais, je faisais un truc. Active les couleurs lisibles de Twitch tant que tu es là. Comment on fait ça, Sugar? Comment on fait ça, Sugar, les trucs de Twitch là? 2 minutes 25. Non, c'est pas sur OBS, c'est encore autre chose. À partir de là, en fait, je faisais une petite manip là. Je sais plus comment je faisais, je me créais le chat. Option du chat, aspect du chat, couleur lisible. Bon, je le fais pas maintenant, ça me stresse, là, il y a Bayrou qui va parler. La roue crantée en bas. Bah, elle est plus là, la roue crantée, là. Bah ouais, moi je faisais ça avec la roue crantée, t'as raison. Y a pas de roue crantée, là. Ça me stresse. Y avait une roue crantée en bas à droite avant. Non, pas la roue cramptée. Êtes-vous à jeun, à jeun, à jeun? Ça, c'est du très bon sondage, ça. Vous avez vu le sondage ou pas? Non, c'est 16 heures l'annonce, crunchy. C'est dans quelques secondes. Je vous remets le truc. Alors, le sondage, très important. Vous n'avez pas ça sur LCI ou BFM, hein, ou je sais pas quoi. Hein. Êtes-vous à jeun, 72%? Est-ce que vous êtes à jeun, 16%? Est-ce que vous êtes à jeun, 12%? Les gens sont surtout à jeun. Hein. Après, apparemment, ils suppriment un jour férié. On va voir. Les gars, depuis le temps que je vous explique, attendez les infos. Hein, les fuites, les sources, les machins, m'a dit le concierge, du beau-frère, du coach, de la femme, du cousin, du Premier ministre, m'a dit que non, non, non. Le mec, il va parler là. Cette petite image va s'animer dans un instant. Il va nous dire les trucs. Vous êtes à 2 minutes en attente. Bah oui, on est en attente là. Il est 16 h là. Qu'est-ce qui branle? Ah non, il est 59. Donc attendez les infos. Ça va tomber là. Justement, source LCI, TF1, Le Parisien. Eh ben, on s'en fout! Hein? Nous, on est des gens sérieux. Nous, on a appris à attendre les infos, d'où les infos doivent tomber. C'est Bayrou qui va parler. Donc, peut-être qu'ils ont raison, mais on ne sait pas. Hein? 4000 personnes qui vont écouter Bayrou, même dans ses rêves les plus fous, ils ne pourraient pas l'imaginer. Vous êtes dur, hein? Vous êtes dur. Hein? Vous êtes dur. Bon, ça part bientôt là? Ça part bientôt? Ça part bientôt là? Vous me dites quand ça part, hein? Ça part quand? Ça part toujours pas. Hein? Il est en retard. Hein? Peut-être que c'est l'image en vitesse réelle là. Il est tellement lent, notre Premier ministre. Oh non, les gars! Oh non, ça c'est dur. Oh non, 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 vous pouvez pas dire ça. Vous croyez que ça a commencé là? Refresh? Ah oui, c'est pas con. Bah non, remarque, non, il y avait le décompte là. Je refresh pour vous. Non, 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 non. Et vous croyez qu'il a commencé là? Ça a commencé? Ça a commencé? En attente du gouvernement, qu'est-ce qui se passe? On a 10 sous là? J'ai raté une info? Ça a 10 sous? La peur du streamac? Non, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé. On peut même aller voir la vérification sur une chaîne. Si on va sur France Info, par exemple. France Info. Direct. Hop. France Info. Tac. T'as vu, ça arrive là? Ça arrive là? Alors, France Info Direct Télé. Voilà. Regardez le direct. Ah, il arrive, il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver là.
Bon, vous n'arrivez pas à vous plaindre.
Il est en train d'arriver là. On est bien, on est bien, on est pas en retard, on est pas en retard. Il est en train d'arriver. Ok, très bien. On est bien, on est bien, on est bien. Oh, ça commence!
Madame et messieurs les ministres d'État, madame et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés et
On n'a
sénateurs,
rien raté.
mesdames et messieurs.
Le son, ok, on est bon, on est bon.
Il est des moments dans l'histoire des peuples où ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. Et ce moment est un de ceux-là. Il ne s'agit plus de savoir seulement quelles sont nos exigences, quelles sont nos préférences, mais qui nous sommes.
Taisez-vous, on n'entend rien.
Quel peuple formons-nous? À quoi ce peuple croit-il? De quel ciment est-il soudé? Et quelle part chacun de nous, citoyennes et citoyens, est-il prêt à prendre à notre avenir collectif? Alors je ne vais pas refaire sur cette question des finances publiques la longue histoire de notre étrange défaite, comme disait Marc Bloch pour un autre temps. Il y a plus de 50 ans que notre pays, tout courant politique confondu, n'a pas présenté un budget en équilibre. 50 années que nos dépenses publiques dépassent chaque année les recettes. Et peu à peu, on s'est habitué à ce déficit, et cette habitude du déficit a gagné aussi ce qui est invraisemblable, les budgets sociaux, santé et retraite qu'on devrait pourtant assumer ensemble chaque année. Et les collectivités locales contribuent, par leur dynamisme même, aux besoins de financement public. Or, le déficit en soi, ça n'existe pas. Le déficit, c'est purement et simplement de la dette. C'est comme ça dans toutes les familles, c'est comme ça dans toutes les associations, dans toutes les entreprises. Ce qu'on dépense en plus de ses revenus, en plus de ses ressources, il faut l'emprunter. Alors, encore faut-il savoir à quoi servent les sommes empruntées. Si dans votre famille, vous avez de quoi boucler les fins de mois sans difficulté et que vous empruntez pour l'avenir, pour construire une maison ou pour investir dans un appartement ou dans de nouvelles technologies ou des équipements, tout va bien. C'est normal, c'est un effort bien sûr, mais c'est un effort pour la famille, pour l'entreprise. C'est le développement, l'éternel mouvement des êtres humains qui permet d'avancer. Et si vous êtes un État, si vous empruntez pour construire des universités, des voies de chemin de fer, ou des hôpitaux, alors, ce sont les générations qui viennent qui en profiteront autant que vous. Il est donc normal qu'elles remboursent leur part des annuités, qu'elles assument une partie de la charge. Mais si vous êtes tous les mois en déficit, si vous êtes obligé d'emprunter, non pas pour investir, pour une maison, pour un équipement, mais pour payer les dépenses de tous les jours, et que tous les mois, votre mensualité augmente, mois après mois, vous vous asphyxiez, et ça s'appelle le surendettement. Tous les Français savent de quelle malédiction il s'agit. C'est une malédiction pour les familles, pour les entreprises, et pour un pays, c'est la même chose. Être obligé d'emprunter tous les mois pour payer les retraites ou payer les salaires des fonctionnaires, c'est une malédiction qui n'a pas d'issue. Alors bien sûr, pendant longtemps, on ne voit pas le risque, on s'en accommode, on détourne les yeux, et puis un jour, on est rattrapé et on ne peut plus payer ce qu'on doit.
C'est alors, intéressant
c'est
parce
crise,
que...
La vraie crise.
Il dramatise là, il donne un enjeu.
Il est acculé, il est historique. Traqué, et vous ne pouvez plus éviter le piège. Un pays qui ne peut pas faire ses fins de mois sans emprunter et qui un beau jour ne retrouve plus de prêteurs, il ne peut plus payer les fonctionnaires, il ne peut plus payer les retraites, alors il n'y a plus aucun échappatoire. Et alors, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une hésitation, ce pays-là ne peut pas survivre, il est obligé de plier. Et ceci n'est pas une théorie en l'air.
Dramatise, là.
C'est arrivé
dramatise.
À des pays aussi dignes et aussi respectables que le Canada ou la Suède dans les années 90.
Il évoque le risque de banqueroute.
Que le Portugal, l'Italie ou l'Espagne au début des années 2010.
Voilà.
Tout d'un coup, les prêteurs cessent d'avoir confiance.
Eh oui.
Et nous l'avons vu sous nos yeux arriver à la Grèce. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier l'histoire de la Grèce ou l'exemple de la Grèce.
On en a parlé récemment, ça.
Le Premier ministre d'alors s'appelait Alexis Tsipras. Il était à la tête d'une coalition qui s'appelait Syriza, de gauche et d'extrême gauche. Et pour éviter cet obstacle, il a convoqué un référendum du peuple grec pour que son pays dise non et que, officiellement, son pays derrière lui refuse les conditions de redressement qui lui étaient faites par l'Union européenne et le FMI. Ce référendum pour dire non, Alexis Tsipras l'a gagné très largement le dimanche et le jeudi, 4 jours après. Il a été obligé de signer tout ce qu'on lui demandait, tout ce qu'il avait juré de ne jamais accepter. Et le peuple grec... L'État grec ont dû consentir des sacrifices immenses. Ils ont dû baisser de 30% les retraites et de 15% le salaire des fonctionnaires. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi il faut constater que c'est là que nous en sommes et c'est pourquoi c'est notre moment de vérité.
Je vous ai monté le son, hein.
La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. Ça signifie 114% du produit national de chaque année, ce qui signifie que cette dette représente plus d'une année de la totalité de ce que notre pays a produit dans toutes ses activités, agricoles, industrielles, intellectuelles, dans le secteur du commerce, des services... de la santé ou du soin,
il y a pas de slide
la totalité de cela,
vous avez tout là.
La dette le dépasse de au moins 2 mois entiers. Et plus la dette s'accroît, plus c'est la double peine. Car si les taux d'intérêt progressent, il faut emprunter toujours davantage si l'on veut continuer à dépenser autant et payer en même temps les mensualités de la dette. Et la charge de la dette devient un poste budgétaire écrasant. En 2029,
ce que je vous ai dit ce
matin, nous ne changeons rien, la part des dépenses publiques consacrées au paiement des intérêts de cette dette serait
on sera à
de
combien, là
100 milliards d'euros, c'est-à-dire de loin le premier poste budgétaire de l'État,
et oui,
bien plus que le budget consacré à l'éducation nationale. Alors ce sont des chiffres qu'on a beaucoup de mal à se représenter. 3 300 milliards, c'est 3 300 fois 1 000 millions d'euros. Et cette dette augmente de plus de 150 milliards par an. Et pour le dire plus simplement et pour que chacun mesure exactement la charge immense qui pèse sur nos épaules, ça signifie que chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. 5 000 euros de dette supplémentaire par seconde.
Les petits graphismes.
Voilà où nous en sommes.
Voilà. Bon,
Et c'est pourquoi je crois que, comme nous le disons depuis l'installation du gouvernement, nous avons désormais le devoir de prendre nos responsabilités. Je crois que c'est la dernière station avant la falaise et l'écrasement par la dette. Il faut l'appeler par son nom, c'est un danger mortel pour un pays. Voilà, si l'on voit dans la vérité,
il dit ça depuis longtemps,
l'arme des citoyens.
Ça fait des années que Bayrou il est là-dessus.
Les Français.
Ça fait des années que Bayrou est là-dessus. Hein.
La c'est vie pas... a fait que j'ai, personnellement, comme citoyen engagé, comme candidat, comme élu depuis plus de 20 ans, identifié ce risque.
Voilà.
Que j'en ai fait le sujet de plusieurs campagnes présidentielles.
Et à chaque présidentielle, il en a parlé.
Ou le destin, qui est un autre nom du hasard, m'a confié la charge d'en saisir le pays à ce moment critique de notre histoire. Je dis moment critique parce que l'urgence est là. Moment critique parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ni majorité absolue, ni majorité relative, pour affronter les choses avec détermination et constance. Et c'est la première fois depuis plus de 60 ans que nous sommes dans une telle situation politique. Un moment critique parce que, disons la vérité, le monde politique depuis des années n'est pas en voie de ressaisissement, mais disons-le, en voie de division, de progressive violence et de délitement, sans doute aussi à l'image de la société française tout entière. C'est donc un moment de vérité.
Là, il nous prépare aux annonces, là.
Parce que nous ne pouvons plus, en tout cas, c'est notre conviction et c'est la mienne, nous ne pouvons plus ni éluder ni retarder cette menace.
Là, il nous prépare à ce qui va arriver.
Je crois qu'il est tard, mais qu'il est encore temps.
Ah.
Il est encore temps, dans les temps de crise grave, c'est le mot d'ordre des peuples courageux. Alors il faut agir vite et agir fort, mais il faut agir avec justesse et justice. Et pour cela, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans notre pays plus que dans aucun autre pour que nous nous retrouvions dans la situation où nous sommes aujourd'hui.
À qui la faute ?
Et je vois deux grandes raisons.
Oh, oh.
Nous avons considéré comme normal dans notre pays depuis des années et des décennies que l'État, puissance publique et sécurité sociale, que l'État paie tout. Nous sommes devenus accros à la dépense publique. Il n'y a pas de difficulté du pays, il n'y a pas de changement nécessaire, il n'y a pas d'obstacle à surmonter, ni d'ordre sanitaire, ni d'ordre climatique, ni d'ordre énergétique ou familial devant lesquels les élus, les citoyens, les médias n'aient eu chaque fois qu'une seule réponse à la bouche, se tourner vers l'État. Que l'État prenne en charge les difficultés sectorielles, ça a été réclamé pour tous les secteurs, des personnes, aux familles et aux entreprises. Et la France est ainsi devenue le pays du monde qui dépense le plus d'argent public, 57% de notre production nationale chaque année, 57% dépensés contre 50% seulement de recettes. Et je vous invite à mesurer avec moi le paradoxe français. Nous sommes le pays du monde qui mobilise le plus de dépenses publiques, Nous sommes le pays du monde qui a les impôts et les charges sociales les plus élevées.
Non, un des pays de l'OCDE.
Et si l'abondance des impôts faisait la richesse et le bien-être d'une nation, nous serions le pays le plus prospère et le plus heureux de la planète.
Un des pays de l'OCDE n'est pas le pays du monde, mais bon.
Les Français sont de plus en plus mécontents de leurs services publics. Et pourtant, notre économie souffre. Et pourtant, ce qui est plus frappant encore, nous sommes le pays le plus pessimiste au monde.
Oui, un petit peu. On aime bien
râler. Selon la mesure de tous les sondages disponibles.
On aime bien râler.
Le pays le plus pessimiste au monde est le pays où l'on dépense le plus d'argent public.
Non, pas tout à fait.
Et en revanche, si vous comparez avec les pays que j'ai cités tout à l'heure où les efforts de réduction des dépenses publiques ont été mis en œuvre, alors ce sont précisément ceux qui se déclarent dans les mêmes comparaisons internationales les plus heureux, alors que 2/3 des Français se déclarent pessimistes pour l'avenir national.
Salut Pantoufle.
Ça, c'est la première raison. Accro aux dépenses publiques.
Ok.
Accro aux dépenses de l'État.
Ok.
Mais la seconde de ces raisons, la fuite vers la dette...
Je pense que c'est la faute d'Amine.
C'est que nous avons peu à peu perdu de vue que pour distribuer, il fallait produire.
Ah.
Or, distribuer toujours plus en produisant toujours moins, c'est une condamnation.
On ne produit pas assez.
Et cela se traduit dans notre commerce extérieur. Sur les 25 dernières années, depuis le début des années 2000 jusqu'en 2024, notre solde, notre résultat du commerce extérieur, ce que nous achetons contre ce que nous vendons, notre résultat du commerce extérieur est passé de l'équilibre dans les années 2000 à un déficit massif, tous les ans répété, qui est une fois de plus cette année, comme depuis 5 ans, supérieur à 100 milliards d'euros pour la 4e année consécutive. Nous sommes donc devant 2 mouvements d'affaiblissement face auxquels nous devons mettre en œuvre 2 plans d'action que je vous propose d'examiner maintenant et qui forment un ensemble cohérent. Un plan pour dire stop à la dette et un plan pour dire en avant la production. Un tel mouvement de redressement serait déjà difficile en temps ordinaire, mais les temps que nous vivons aujourd'hui à l'échelle de la planète sont menaçants comme ils ne l'ont jamais été. Le changement climatique est une menace en soi, même si plusieurs continents ne peuvent pas y faire face et que d'autres ont décidé de l'ignorer. Mais surtout, le grand basculement que nous avons vécu, c'est que la violence est devenue la loi universelle. Le basculement du monde qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par les armées de la Russie de Poutine, ce basculement du monde nous a montré avec d'autres, avec le 7 octobre, avec le drame à Gaza, que le monde était prêt à s'embraser.
Oui, enfin.
Et on nous annonce régulièrement des mouvements de cet ordre du côté de la mer de Chine.
Non, c'est comme ça depuis toujours, ça. Mais c'est pas grave.
Et nous avons vu récemment, avec le conflit opposant l'Iran à Israël, que tout cela était en train de devenir une règle générale pour, hélas, toutes les régions de notre planète. Et cela nous dicte un devoir qu'il faut oser formuler. Cela nous oblige à organiser notre propre défense.
Eh oui, oui. Il dit ça parce que
cela
Macron
nous oblige à organiser et à renforcer notre autonomie stratégique.
Macron a dit qu'il voulait augmenter le budget de la défense.
Cela nous oblige à un effort d'amélioration.
C'est pour ça.
De notre capacité militaire.
Qui fait la grande parenthèse.
Et cet effort inédit de réarmement, il mobilise en même temps toutes les nations européennes, et la France ne peut pas rester à la traîne.
Wow.
Nous savons tous que l'armée française, et nous croyons tous, j'imagine que l'armée française doit rester au niveau de ses responsabilités afin de faire face aux nouvelles menaces, aux nouvelles formes d'affrontement dont nous connaissons les visages, l'espace, le numérique, la désinformation, les armes nouvelles, les drones, les missiles, tout ce qui fait aujourd'hui l'actualité et la vie quotidienne de tant de nations soumises à la violence. Et donc, il faut dire clairement que nous devons nous donner les moyens d'affronter ces enjeux, ce qui passe d'abord par le respect de la loi de programmation militaire 2024-2030. Mais aussi exigeant que cela paraisse, c'est presque hors d'atteinte, nous allons en plus devoir accentuer cet effort. Tous les pays européens se réveillent face à la même obligation, à la même urgence, et tout d'un coup, ils comprennent ce que la France leur dit depuis longtemps, depuis 60 ans, depuis le général de Gaulle, et spécialement depuis 8 ans, depuis l'élection du président de la République, et qui se résume en une formule toute simple, dans le monde qui vient, vous ne pouvez compter que sur vous-même.
Oui, il a fait une grande parenthèse. Il allait annoncer des trucs.
Et tout se réveille donc sous la pression de la même urgence et des mêmes
menaces. Il a rajouté
menaces.
Une couche
sur partout, la guerre est revenue et elle se mondialise. Nous savons tous que les armes avec lesquelles la Russie écrase les villes ukrainiennes, ce sont pour partie l'Iran et la Corée du Nord qui les produisent. La guerre est revenue et nous ne pouvons pas laisser notre continent désarmé ou soumis au seul choix américain.
Monsieur le Premier ministre, on a compris.
D'autant plus que, pour compliquer encore les choses, non seulement il y a cette violence partout dans le monde, mais
on fait une parenthèse là.
Cette violence, elle s'est aussi étendue dans le monde économique, industriel, commercial, et la bataille des droits de douane fait de nous une cible, en tout cas, nous impose une fragilité en face de laquelle nous allons
devoir réagir.
Et c'est pourquoi le gouvernement veut une politique européenne déterminée dans la guerre des droits de douane.
François, annonce.
Et c'est pourquoi, pour parler de notre responsabilité et de notre devoir, le gouvernement assume, en accord avec le président de la République et dans la ligne qu'il a tracée dimanche, assume l'impératif de protection de notre défense nationale vers l'avenir,
tu l'as déjà dit.
Vers les nouvelles menaces et vers les armes nouvelles qui garantissent la liberté.
Oui.
Et cela se traduira par quelques 3,5 milliards d'investissements supplémentaires en 2026.
Et il ne veut pas.
Et 3 milliards de plus en 2027. Et bien sûr, nous aurions tous préféré des temps plus paisibles.
Eh oui.
Mais ce sont les nôtres, et la responsabilité est la nôtre. Alors nous devons faire face, et quelle que soit la difficulté des temps, nous ne braderons pas notre impératif de sécurité. Alors j'en viens donc, si vous voulez bien, à la présentation des deux plans. Stop à la dette, par lequel je vais commencer, et en avant la production que je traiterai ensuite.
Stop à la dette.
Et qui vise à enrayer l'engrenage néfaste dans lequel nous sommes entraînés.
Alors,
ou pour être plus exact, dans lequel nous nous sommes laissés entraîner.
Les mesures, monsieur le Premier ministre.
Ces plans n'ont pas été pensés par le gouvernement en solitaire. Les contributions à cette réflexion ont été nombreuses, issues notamment des travaux des parlementaires, des partenaires sociaux, des groupes politiques, des associations d'élus locaux, des think tanks, et de la société civile au sens large. Je veux remercier en particulier le président du Sénat et les commissions de la Haute Assemblée pour leurs propositions concrètes. Et je remercie aussi tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale qui ont pris part aux rencontres organisées avec le gouvernement sur la préparation du budget 2026. Toutes ces propositions ont été utiles, mais il est vrai que c'est moi, dans mes fonctions de chef de gouvernement, qui ai tranché. Je l'ai fait en conscience, sans aucune considération de quelque intérêt personnel ou catégoriel que ce soit. Je l'ai fait avec le seul souci du retour de notre nation à l'équilibre ou pour commencer à un meilleur équilibre. Et je l'ai fait pour défendre notre liberté et de tous ces choix, bien sûr, je suis content de rendre compte aux Français. Alors d'abord, le plan stop à la dette.
Ça y est.
Ce plan repose sur 5 principes.
Oui, la calvage, je sais.
Il s'agit d'un plan pluriannuel de retour à l'équilibre de la dette sur 4 ans. 2026,
4 ans.
2027, 2028 et 2029.
Oui, 4 ans, oui.
C'est un plan réaliste et un objectif que nous affirmons atteignable. La promesse de ce plan et de notre engagement devant les Français est toute simple. C'est d'arrêter l'augmentation de la dette en 4 ans. C'est une trajectoire que nous avons choisie et qui se décline précisément. Nous sommes entrés en fonction alors que la France était presque à 6% de déficit.
Ça n'est pas baisser la dette, c'est stopper l'augmentation de la dette.
Conformément à notre engagement, un déficit de 5,4% en 2025. Ce déficit doit passer la marche est haute à 4,6% en 2026, à 4,1% en 2027, à 3,4% en 2028 pour atteindre le seuil de 2,8%.
C'est revenir sous les
3%. 2029. Alors 2,8%, c'est un peu moins de 3%, ce n'est pas des chiffres choisis au hasard. C'est un chiffre qui a une signification extrêmement simple. C'est le seuil à partir duquel, dans un pays comme le nôtre, la dette n'augmente plus. Elle est stabilisée. Alors on peut sans doute souffler un peu, on peut compter sur, comme les bateaux, sur la marée de la croissance pour remettre le navire à flot. Et ce plan, deuxième principe, passe avant tout par la stabilisation et la baisse de la dépense publique.
Okay.
Parce que son emballement n'est compatible ni avec l'accroissement de notre richesse nationale, ni, puisque nous sommes le pays le plus imposé du monde, en tout cas de l'OCDE,
ni quand même.
Avec une hausse continue des impôts. Troisième principe, tout le monde devra participer à l'effort.
Tout le monde.
Face à l'ampleur de l'enjeu, il est illusoire de penser qu'une catégorie ou une autre puisse seule porter le fardeau.
Toi aussi, tu vas payer. Tout le
Quatrième monde. Principe, le travail et la compétitivité de nos entreprises doivent être autant que possible épargnés.
Oh, oh, oh.
Ils sont notre seule arme pour aller de l'avant et pour ne pas vivre dans le cauchemar de l'amputation perpétuelle des dépenses et investissements que nous avons à faire. Cinquième principe et dernier, cet effort, enfin, est défini pour être supportable par tous. Il n'impose pas de baisse des salaires dans la fonction publique, ni de baisse des pensions de retraite.
Oh.
Il ralentit la croissance des dépenses, mais ne la supprime pas. Et il n'entraîne pas de récession. Alors, la première étape dans notre plan pluriannuel de retour
à
l'équilibre de la dette concerne l'année 2026.
Ah putain, on va voir ça chaque année.
Nous devons réduire pour l'année prochaine, pour 2026, notre déficit annuel à 4,6%.
Okay.
C'est ça la marche que nous avons définie pour arriver à retrouver cet équilibre en 2029. Alors ça a une signification précise, c'est que nous devons retrouver la maîtrise de la dépense publique, nous devons contenir l'accroissement quasi mécanique des charges, et cela signifie un effort, je vous épargne le calcul que nous avons défini depuis longtemps,
oui, ça va aller, oui.
Au moins à hauteur de 40 milliards d'euros.
Ah, 40 milliards en 2026 ?
Mais, comme je vous l'ai indiqué, nous vivons au milieu de dangers particuliers qui pèsent sur le monde cette année. L'effort de notre défense ne peut pas être éludé. Et nous ne pouvons pas courir le risque de laisser se dégrader notre situation faute de prévoyance. Au lieu de 40 milliards,
45.
Prévus si la situation ne s'était pas aggravée en matière de défense,
45, 40.
Nous avons décidé de porter ce chiffre à 43,8 milliards, soit près de 44 milliards.
Okay.
Alors, tout ceci a des conséquences. Il faut que nous contenions de manière durable la progression des dépenses de l'État, des collectivités et du système social. Et c'est tout d'abord l'État qui va montrer l'exemple.
L'État
et stabiliser ses dépenses et même réduire son train de vie. L'État se fixe comme première règle de ne pas dépenser davantage à l'euro près en 2026 qu'en 2025.
D'accord.
À l'exception de l'augmentation de la charge de la dette et des dépenses supplémentaires pour le budget des armées.
Sauf armées.
Les dépenses d'intervention seront contenues et s'il le faut, réorientées.
Okay.
Pour y parvenir, aucun département ministériel ne sera exempté. Tous les ministères seront solidaires de cet effort collectif. Il pourra arriver que certains projets de loi de programmation soient décalés de quelques mois, pas davantage, et que le lancement de grands projets coûteux programmés soit reporté, par exemple, de 6 mois. L'État va diminuer ses charges. Il va reprendre sa maîtrise de la masse salariale en réduisant de 3000 postes le nombre d'emplois publics dès 2026, hors les postes d'élèves-professeurs créés dans le cadre de la réforme des enseignants. Cet effort sera inscrit dans la durée. Les administrations et les opérateurs devront repenser leurs moyens en anticipant dès à présent une règle que nous fixons pour les années qui viennent et qui sera une règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite.
Ça va beaucoup, 3 000 fonctionnaires.
Mais l'État doit aussi mieux maîtriser son patrimoine. L'État est propriétaire de très nombreux biens immobiliers pour un montant de plusieurs centaines de milliards. Il y a même des chiffres plus importants encore qui sont articulés. Patrimoine qu'il ne connaît pas toujours en détail et dont il ne fait, pour ainsi dire, rien.
C'est un peu
patrimoine
l'argent magique, ça.
Important et ça, improductif.
C'est l'argent magique.
Nous allons
ça.
Créer une société foncière,
voilà.
Pour réduire,
allez.
Réaliser chaque fois que possible, en tout cas gérer et rendre utile le patrimoine improductif de l'État.
C'est pas la première fois que j'entends ça.
L'État détient aussi des participations dans de grandes entreprises.
Ah.
Plusieurs sont essentielles. Elles doivent être protégées pour jouer leur rôle stratégique. Mais dans certaines de ces entreprises, la participation de l'État pourrait être diminuée sans réduire son influence.
Okay.
Et le patrimoine ainsi dégagé doit être mis en œuvre, par exemple, pour aider à de grands programmes de recherche. Enfin, l'ensemble des opérateurs de l'État, et en particulier les très nombreuses
agences.
J'avais écrit innombrables agences ou comités. Prendront pleinement leur part à cet effort.
Rationaliser
je salue le travail initié par la commission d'enquête sénatoriale sur lequel nous nous appuierons. Nous allons supprimer des agences improductives qui dispersent l'action de l'État. Les dépenses seront recentrées. Plusieurs centaines, peut-être entre 1 000 et 1 500 emplois seront supprimés, mais surtout dans le cadre de l'exercice de la refondation de l'action publique. Une réorganisation des opérateurs doit être menée, qui passera soit par des réinternalisations, l'État reprendra la responsabilité de certaines de ses actions, soit par des fusions.
L'agence touriste, par exemple.
À cet effort de maîtrise des dépenses publiques, les collectivités devront aussi prendre leur part. Elles sont proches des Français, elles sont au cœur de l'investissement public, mais elles doivent participer à l'effort général. La règle sera que leurs dépenses ne dépassent pas dans les années qui viennent la progression des ressources de la nation. Pour ce faire, le dispositif qui porte un nom compliqué de lissage conjoncturel, est-il écrit, des recettes fiscales, dans le monde des initiés, on appelle ça le DILICO, sera reconduit. Et les financements apportés par l'État aux collectivités territoriales seront régulés, mais en contrepartie, un soutien exceptionnel de 300 millions d'euros sera accordé aux départements les plus en difficulté, avec un travail conjoint pour maîtriser durablement la dynamique de la dépense sociale.
contrairement à ce que dit le chat, enfin, rien à voir avec le lissage brésilien. Le lissage brésilien, c'est autre chose.
La maîtrise des dépenses publiques passe aussi par celle des dépenses sociales.
Ah, oh, attention.
Nous sommes, et nous pouvons être fiers de notre système de santé.
Dépenses sociales,
mais
mesdames et messieurs.
Nous devons aussi être conscients que si nous ne faisons rien, la dérive automatique nous conduit à des déséquilibres que nous ne pourrons pas supporter. Si nous ne faisons rien, cette dépense augmentera l'année prochaine de 10 milliards d'euros.
Okay, okay.
Ce n'est pas soutenable. Je propose que nous fassions l'effort de limiter cette hausse de moitié, ce qui fait que nous devons collectivement réaliser un effort de l'ordre de 5 milliards d'euros. Alors, comment va-t-on faire ?
Ah bah oui.
Des partenaires sociaux, des acteurs de la santé, au premier rang desquels la Caisse nationale d'assurance maladie, ont fait, dans des études courageuses, de nombreuses propositions sur lesquelles le gouvernement entend s'appuyer.
Il n'annonce rien, là.
Nous devons responsabiliser les patients pour que le coût de la santé soit plus concret pour nos concitoyens. Nous consommons, par exemple, en France, deux fois plus d'antibiotiques qu'en Allemagne. Je ne crois pas que nous soyons en meilleure santé que les Allemands. Chaque fois que nous achetons une boîte de médicaments, nous en payons une partie. La somme totale que nous déboursons, additionnée, est plafonnée à 50 euros par an. Nous pousserons ce plafond à 100 euros, ce qui signifie, pour ceux qui consomment le plus de médicaments, une dépense de l'ordre de 8 euros par mois. La responsabilisation passe aussi par la prévention, notamment la vaccination. Je voudrais que vous ayez ce chiffre en tête que donne souvent la ministre de la Santé. Les trois quarts des personnes en réanimation au moment des épidémies de grippe ne sont pas vaccinées. Un autre défi auquel nous devons nous attaquer concerne les affections de longue durée.
Les ALD.
20% des Français sont en affection de longue durée.
On en a parlé ce matin.
Contre 5% de la population allemande. Et je ne crois pas davantage que tout à l'heure que les Français sont en plus mauvaise santé que les Allemands. De la même manière, la multiplication déraisonnable, un certain nombre de pratiques qu'il faut réguler,
100%.
La multiplication déraisonnable par certains patients des visites pour contrôler un diagnostic ou pour contrôler ce que leur a dit le médecin précédent. Ou la multiplication, toujours déraisonnable, des mêmes radios ou des mêmes scanners, parfois à 15 jours d'intervalle. Tout cela n'apporte rien aux patients. La santé ne peut pas être seulement un marché sur lequel les consommateurs soient sans frein et sans limite. La mise au point définitive, je m'exprime avec prudence, la mise au point définitive, parce qu'il y a 30 ans qu'on en parle, du dossier médical partagé sur lequel chacun aura la totalité des examens qu'il a reçus pour que le médecin suivant sache à quel patient et à quelle pathologie il peut avoir affaire. Le dossier médical partagé et sa tenue obligatoire par les praticiens feront, avec le concours de l'intelligence artificielle, faire des pas de géant au diagnostic et à la prévention et à l'aggravation des affections. Cela, tous les médecins et tous les professionnels de santé le savent. Nous allons donc engager une réforme en profondeur de prise en charge de ces affections avec, dès 2026, des mesures visant à sortir du remboursement à 100% des médicaments qui sont sans lien avec l'affection déclarée. Évidemment, il ne s'agit pas des médicaments qui touchent l'affection en question. Et aussi à pousser qu'on puisse sortir du statut d'affection de longue durée lorsque l'état de santé ne le justifie plus. Une plus grande efficience, comme on dit, une plus grande efficacité sera demandée à l'hôpital, notamment dans les achats et grâce à la médecine ambulatoire, et de la même manière dans les soins de ville. Je donne un exemple de meilleure gestion qui ne coûterait rien, bien au contraire. Lorsqu'un hôpital a un médicament même très coûteux, et que ce médicament approche de la date de péremption, il ne peut ni le donner ni le vendre à un autre établissement. Il est obligé de le détruire, et l'autre doit l'acquérir au prix fort. C'est de bon sens qu'on puisse ainsi faire des économies en partageant ou en mutualisant les achats et le risque. De la même manière, j'ai toujours été frappé que les dispositifs médicaux et médicalisés, les fauteuils pour les personnes infirmes, gravement malades, en fin de vie, les cannes anglaises, le nombre si important d'aides de matériel mobilisé pour une personne gravement atteinte, il faut pouvoir les réutiliser après que la personne n'en a plus besoin.
Quand elle est morte, quoi.
Par exemple, après qu'elle a disparu. En ce qui concerne les arrêts maladie,
on va récupérer les cannes et tout ça.
Nous devons mettre fin à une dérive. Les contrôles qui ont été exécutés sur les arrêts maladie de plus de 18 mois ont montré que pour 50% d'entre eux, ces arrêts de travail n'étaient plus justifiés au moment où le contrôle a lieu.
Et moins d'arrêts maladie.
Ceci n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre et dans une période comme celle que nous vivons.
Il faudra récupérer les cannes et les fauteuils roulants des gens.
Il y a d'autres blocages que je trouve à contre-courant. Par exemple, au-delà de 30 jours d'arrêt, oui, le salarié ne peut pas reprendre le travail sans l'avis d'un médecin du travail.
Oui.
Or, comme nous manquons cruellement de médecins du travail, comme d'autres spécialités, des dizaines de milliers de personnes qui souhaiteraient reprendre le travail en sont empêchées. Et je trouve que c'est absurde.
Oui, oui.
Ça fait des dépenses inutiles,
ouais,
ça pourrait faire des économies utiles et surtout ça pourrait servir à leur vie, au meilleur équilibre de leur vie. Eh bien, à l'exception des maladies professionnelles et des accidents du travail, on dira que c'est le médecin, généraliste ou spécialiste, qui déterminera la possibilité de reprise du travail. Ce sont ainsi, c'était des exemples pour montrer que ce sont des modifications dans nos comportements individuels qui contribueront au retour à l'équilibre, en tout cas à un meilleur équilibre de la sécurité sociale, sans dégrader la qualité des soins. Tous ces efforts qui impliquent l'État, les collectivités, les dépenses sociales que je viens de décrire, si je fais des additions exactes, ils ne suffiront pas à eux seuls. Ils représentent quelque chose comme 21 milliards. Or, nous nous sommes fixés, je vous rappelle, d'atteindre 44 milliards.
Il y a 21 milliards sur les dépenses sociales.
Il faut donc mettre en œuvre d'autres stratégies. Et je vous propose plusieurs de ces autres stratégies.
Okay,
la première, c'est que nous devons partager en 2026 une année blanche. Qu'est-ce que c'est une année blanche ?
Ça y est, année blanche.
C'est une année dans laquelle on n'augmente plus ni les prestations, ni les barèmes.
Il l'a dit.
Une année blanche, c'est une année où, en 2026, on aura exactement le même montant des retraites,
ouais,
pour chaque pensionné que celle qu'on avait en 2025. C'est un effort collectif qui concerne toutes les catégories de Français et cette règle sera de ne pas dépenser plus en 2026 qu'en 2025.
Une année blanche pour tout le monde ?
Pas moins, mais pas plus. Pour chacun d'entre nous. C'est un effort très important, temporaire, demandé à tous, mais qui n'aura de sens que s'il est juste et si chacun
contribue
à hauteur de ses moyens.
Même les ceux qui n'ont pas...
Donc l'ensemble des prestations sociales seront maintenues en 2026 à leur niveau de 2025.
Même les petites retraites ?
Et il n'y aura pas d'exception.
Tout le monde.
Les Français concernés, c'est-à-dire un grand nombre d'entre nous, seront aidés dans cet effort par la presque disparition de l'inflation qui nous a tant pénalisés ces dernières années. Vous savez que l'inflation est prévue cette année à 1% ou un peu moins de 1%. Ce qui veut dire que les retraites, dans leur montant, ne baisseront pas et qu'elles seront l'année prochaine maintenues au même montant que cette année. Et je le disais, la règle, c'est pas plus, mais pas moins. Cela concernera aussi la masse salariale publique. En 2026, il n'y aura pas de mesures de revalorisation générale ou catégorielle dans les ministères. En revanche, Nous avons tenu à ce que les règles d'avancement dans la carrière des fonctionnaires soient intégralement respectées. Toujours la même idée, le travail mérite d'être pris en compte et valorisé. Les barèmes de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée seront eux aussi maintenus à leur niveau de cette année. Au total, l'ensemble de ces décisions d'année blanche permettront de contenir pour 7 milliards d'euros la progression des dépenses sur une totalité des dépenses dont vous savez qu'elles représentent 1 700 milliards ou quelque chose de cet ordre-là.
Année blanche, 7 milliards.
Ces efforts sont exigeants. Et j'en ai pleinement conscience. Et ils ne seront acceptables si nous prenons des initiatives fortes en termes de justice sociale et fiscale. Tout d'abord, nous devons être intransigeants avec ceux qui cherchent à rompre l'équité, à frauder et à ne pas remplir donc leur part du contrat social.
La fraude ?
Nous accentuerons la lutte contre la fraude en améliorant la détection des fraudes et surtout le recouvrement de ces fraudes et des amendes. En 2023, 15 milliards de fraudes ont été détectées, mais seulement 11 milliards ont été recouvrés. En 2024, c'est presque 17 milliards de fraudes, 16 milliards 6, qui ont été mis en évidence, mais seulement 11 milliards qui ont été recouvrés. Il y a donc, vous le voyez bien, une possibilité d'améliorer de beaucoup le recouvrement des fraudes, enfin des amendes et des pénalités constatées dans la fraude. Nous nous attaquerons à tous les types de fraudes.
Pas très nouveau, ça.
La fraude fiscale,
ouais.
En lien avec les travaux qui ont été menés au Sénat. La fraude aux aides publiques, comme celle qui concerne MaPrimeRénov', ou le compte personnel de formation, la fraude à la dépense de santé. Cette lutte doit s'inscrire dans la durée. Nous allons déposer un projet de loi à l'automne contre la fraude sociale et fiscale pour mieux la détecter, la sanctionner et recouvrer l'argent perdu. Une mission sera confiée à 3 parlementaires pour suivre la mise en œuvre de ce plan.
Ouais.
Ensuite, nous allons demander un effort particulier à ceux qui ont la capacité de contribuer davantage.
Les riches.
Soit parce qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages fiscaux, soit parce que leur capacité leur permettrait de prendre une plus grande part de la solidarité.
Niche fiscale ?
Nous nous concentrerons d'abord sur les niches fiscales.
Bim !
Niches fiscales et sociales qui profitent d'abord aux ménages les plus aisés et aux grandes entreprises. Nous ferons la chasse aux niches fiscales inutiles, inefficaces, en commençant par les dispositifs qui arrivent à extinction.
Lesquels ?
Nous ferons enfin la différence entre ceux des foyers qui ont besoin d'aide ou dont les revenus méritent qu'on s'y attache et ceux qui sont au-dessus en termes de capacité.
Quel seuil ?
C'est pourquoi le fameux abattement de 10% pour le calcul de l'impôt sur les revenus sur le revenu pour les retraités. Alors, ce n'est pas les pensions de retraite.
Oups, ça va sauter, ça
La part dans, les pensions, dans le calcul de l'impôt sur le revenu de ces pensions de retraite.
L'abattement de 10% pour les retraités.
Ce sont des pensions de retraite pour frais professionnels.
Ça saute, ça ?
Ça saute.
Ça saute ?
Vérifier que...
Ça saute ou pas ?
Des avantages pour frais professionnels pour les retraités ne sont pas absolument justifiés. Mais il ne faut pas toucher les petites retraites et les retraites moyennes.
Ça saute.
C'est pourquoi nous n'exprimerons plus en pourcentage cette possibilité, mais nous allons créer un forfait annuel.
Ah, c'est un forfait, c'est bon.
Ce qui permettra d'avantager les petites retraites, de garantir un pouvoir d'achat inchangé aux retraites moyennes et de remettre dans le droit commun les retraites les plus importantes.
Ouais, ok.
Enfin, cet effort de justice doit passer par une contribution des plus fortunés.
Okay.
Une contribution de solidarité sera créée, que nous définirons avec les commissions compétentes des deux assemblées Et cette contribution devra faire participer à l'effort national les plus hauts revenus.
Combien ? À partir de combien ?
Et comme je m'y suis engagé lors de l'adoption du budget,
combien ? Qui ?
Nous prendrons des mesures complémentaires pour lutter contre l'optimisation abusive des patrimoines non productifs.
À partir de combien ?
L'effort de la nation doit être équitable, c'est-à-dire de demander peu à ceux qui ont peu et plus à ceux qui ont davantage.
Bah ouais, mais non, pas moi.
Voilà
j'ai donc l'ensemble des
mesures qui permettront de sortir
de la spirale
de l'endettement.
Sinon, c'est du vent.
Et puis, je voudrais passer maintenant au deuxième volet du plan, c'est-à-dire en avant la production.
En avant la production.
La reconquête de la production dans notre pays est aussi cruciale que la lutte contre les déséquilibres budgétaires.
C'est un peu décevant, hein, le premier volet.
Si notre production par habitant était dans la même gamme que celle de nos voisins européens,
comme l'Allemagne,
nous n'aurions plus de déficit budgétaire.
Ouais.
Et nos concitoyens qui gagnent 2000 euros par mois approcheraient les 2500. Et ceci changerait leur vie. Notre dette, je l'ai dit, représente 114% du PIB. Et nous devons avoir l'obsession, non pas seulement de diminuer la dépense, mais d'augmenter notre produit national.
Okay.
Nous ne produisons pas assez.
Comment qu'on fait ?
Et il n'y a aucune raison acceptable pour un tel retard. Et de même que notre objectif est de réduire le déficit budgétaire, à 3% d'ici 2029, nous devons réduire notre déficit commercial, ce qui passera par le renforcement de notre tissu productif et le soutien à nos entreprises partout en France. Je voudrais d'abord aborder la question du travail.
Attention.
J'ai la conviction qu'il faut réconcilier notre pays avec le travail.
Faut travailler plus.
Avec l'emploi, avec l'épanouissement au travail.
Faut traverser la rue.
Il est devenu insupportable pour beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, quel que soit le courant de pensée auquel nous appartenons. Il est devenu insupportable de voir toutes les entreprises artisanales, tous les commerces, tous les secteurs industriels se plaindre et parfois mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne trouvent plus les salariés jeunes ou motivés dont leurs entreprises ont besoin.
C'est les jeunes.
Et dont ils espéraient qu'ils pourraient un jour prendre la succession.
Ils ne veulent plus travailler.
Ce blocage-là, ce désenchantement...
Ça n'est pas possible, moi je le dis souvent.
C'est un ennemi public et je vous propose que nous le combattions.
Voilà.
Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus.
Et on peut gagner plus ou pas ?
Pour produire. Et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore.
Mais on peut gagner un peu
quand même. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays.
Ah oui.
Je cite comme exemple...
Par exemple ?
Mais je suis prêt à accepter d'autres idées. Le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances.
Pas de stream le lundi de Pâques et lui-même.
Ce sont des propositions. Je suis prêt à accepter ou en examiner d'autres. Si d'autres idées surgissent, bienvenue. Et nous pourrons voir. Mais vous voyez bien que ça n'est pas du tout la même chose pour les spécialistes parlementaires.
Et le chocolatier.
Que d'autres idées qui avaient été proposé l'année dernière.
Et les chocolatiers du lundi de Pâques.
Qu'il y ait pour chaque travailleur une journée de solidarité dont on ne vérifierait pas vraiment si elle est accomplie ou pas et qui se traduirait uniquement par des prélèvements sur les entreprises. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est le pays tout entier qui se met au travail ou qui se remet au travail un jour où, depuis longtemps, il ne travaillait plus. Au passage, cette modification de notre calendrier des jours fériés rapportera plusieurs milliards au budget de l'État.
Combien ?
Simplement parce que les entreprises, les commerces, la fonction publique, la nation travaillera et que notre production sera améliorée.
Tu n'as pas calculé ?
Si nous ne produisons pas assez aujourd'hui, c'est aussi parce que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Alors, ça a une signification très simple. Nous devons augmenter la part de nos concitoyens qui travaillent, faire en sorte que ceux qui le veulent puissent travailler davantage, et que tous travaillent dans de meilleures conditions. Il n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre, avec autant d'emplois offerts, conserve un taux de chômage au-dessus de 7% et que le nombre d'emplois non pourvus soit aussi élevé.
Les gens ne veulent pas travailler.
L'accent doit notamment être mis sur les jeunes et les seniors pour qui les taux d'emploi sont particulièrement faibles. Ouais. Par comparaison avec nos voisins européens.
Il faut arrêter de virer les seniors déjà.
Pour améliorer cette situation, nous devons lever les obstacles qui tiennent beaucoup de Français éloignés du marché du travail.
Ah.
Dans les prochains jours, je vais proposer deux négociations, s'ils l'acceptent aux partenaires sociaux, un nouveau chantier sur l'assurance chômage, dont beaucoup d'analyses indiquent qu'elle porte une responsabilité dans son organisation actuelle.
Trop généreuse, l'assurance chômage.
L'absence de reprise d'emploi.
Oui, mais c'est
et aussi un chantier sur le droit du travail pour améliorer les conditions de travail pour tous, faciliter les recrutements, augmenter les offres de travail lorsque c'est possible. Nous devons avoir comme but que le travail soit toujours un choix gagnant, qu'il n'y ait aucun frein, plus aucun frein au fait de travailler ou de travailler plus. En coordination avec les collectivités, je proposerai au Parlement avant la fin de l'année un projet de loi créant une allocation sociale unifiée pour une solidarité plus lisible et qui donne toujours la priorité au travail. Et si le travail devient un choix gagnant, alors notre système de retraite en sortira aussi gagnant, comme je m'y suis engagé à l'issue du conclave, entre guillemets, avec les partenaires sociaux. Les mesures assurant l'équilibre financier du régime et un traitement plus juste, notamment pour les femmes dont la maternité est venue bousculer les carrières, et la prise en compte de la pénibilité figureront dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne. Tous ces progrès seront réalisés sans alourdir le coût du travail.
Encore faut-il que les négociations avec les partenaires sociaux aboutissent.
C'est un chantier vraiment très important, c'est une reconfiguration de notre système social au moment où il a 80 ans. Et si nous voulons qu'il dure 80 années de plus, nous devons moins faire peser sur le travail le financement de notre système social.
OK.
C'est une question pas seulement de compétitivité et de pouvoir d'achat, mais de justice.
Ça va augmenter la
TVA. Nous devons refonder ce modèle de financement en cherchant d'autres bases pour le financer que le travail.
CSG, TVA.
Ce basculement d'assiette, comme disent les initiés, est un des très grands chantiers que nous avons devant nous.
Comment tu fais ça?
Deuxième option dans ce chapitre produire.
Il dit pas.
C'est la simplification.
Il dit pas.
Nous devons créer un environnement propice à la production par l'allègement et la simplification de toutes les procédures bureaucratiques qui asphyxient pas seulement les entreprises, mais les foyers et les personnes, les artisans par exemple, en créant des obligations de dossier toujours plus lourdes et des normes toujours plus nombreuses. Un rapport du Sénat vient de mettre en évidence la somme si importante que l'État apporte aux entreprises, 211 milliards sur une seule année.
On en a parlé.
Alors,
de ça.
J'ai tout à fait conscience, sans vouloir critiquer la Haute Assemblée, que cette addition ajoute de manière un peu rapide des allègements de charges,
oui,
des subventions.
Enfin, oui.
Il y a de multiples avantages nature très différentes.
211 milliards.
Tout cela est un peu vertigineux, mais
alors,
211 milliards.
Oui, donc.
Disons en tout cas plus de 100 milliards.
Beaucoup, beaucoup.
Ce sont des sommes très importantes.
Qu'est-ce qu'on fait?
Et il me semble qu'il faut reprendre la réflexion sur tout cet ensemble à partir
d'orientations
nouvelles et franches. Alors,
faut
je
réfléchir.
Vous propose que cette réflexion soit organisée autour d'un principe d'échange d'avantages. Moins de subventions contre plus de liberté, de simplification et de confiance. Les normes surtransposées, surabondantes, supplémentaires, les obligations bureaucratiques toujours plus pénalisantes, les absurdités de dossiers imposer à ceux qui peuvent le moins en avoir la charge, ouais. la maîtrise,
ouais.
Imposer aux artisans, aux maîtres d'œuvre, à l'achat public,
je vous expliquerai
les retards de paiement, c'est un autre chapitre très important. Tout cela plombe les acteurs de la production et pénalise, une étude européenne l'a montré, de quelque 4% ou davantage leur chiffre d'affaires.
Ok.
Et pénalise bien sûr davantage les petits, entre guillemets, qui travaillent seuls ou en famille, avec peu de collaborateurs, que les plus gros qui ont à leur disposition des services juridiques, administratifs,
ça, c'est pas
ou
faux.
Des directions des ressources humaines.
Ça, c'est pas faux.
Puissantes. Mais c'est vrai que ça pénalise davantage les petits que les plus importants.
C'est vrai.
Mais c'est un filet qui ralentit et paralyse tout le monde.
Oui, oui.
Et je considère qu'au moment où nous sommes, au moment où, comme j'essaie de le prouver depuis le début de cette intervention, notre pronostic vital comme État est engagé, comme nation, comme société et comme pays, alors nous avons le devoir de supprimer tout de suite ces handicaps.
Ok. Lesquels ?
Et donc, baisser les obligations, les contraintes, la bureaucratie, et en échange, baisser les subventions et les aides de toute nature. Et je propose à tous les acteurs, depuis les artisans,
le CICE par exemple, tout ça là,
depuis les sociétés individuelles jusqu'aux petites, aux moyennes entreprises et aux grandes,
ouais, ouais.
de mettre au point avec le gouvernement dès cet été la liste des simplifications et des allègements de liberté qui sont nécessaires,
qui sont utiles
ou qui sont souhaitables.
On va discuter.
Et le gouvernement qui a constaté que dans les assemblées, ce problème de la simplification n'avançait pas à la vitesse la plus grande qu'on puisse souhaiter. Le gouvernement proposera de régler ces questions par ordonnance, parce qu'il s'agit d'urgence nationale, tout de suite et dès l'automne.
Okay.
Et ensuite, sans trêve et tout au long de l'année, de nouveaux textes de simplification seront proposés, toujours par voie d'ordonnance, afin de lever les obstacles identifiés dans chaque secteur.
Évidemment, si tu es toujours Premier ministre, à la rentrée. Hein.
Ainsi, je crois, peut-être par naïveté, que tout le monde y gagne. L'action publique retrouve des moyens, fait des économies.
Oui, oui.
Les entreprises, petites, toutes petites, moyennes et grandes,
tout
elles gagnent des marges de liberté, d'action et d'efficacité. Les salariés y gagnent parce qu'ils pourront se concentrer sur des actions utiles et l'efficacité du pays. Et l'efficacité du pays y gagne puisqu'il est déterminé à se débarrasser du joug d'absurdité dont il est accablé depuis si longtemps.
On a entendu ça tellement de fois déjà.
Ma conviction est que dès cette première année, nous pouvons attendre de ce travail de donnant-donnant que je n'ai pas chiffré dans le plan.
Dommage.
Mais que je considère comme possible à atteindre. Nous pouvons, sur ces quelques 200 milliards à la destination des entreprises,
211.
Gagner plusieurs milliards d'économies pour l'État.
Combien ? Plusieurs.
Je ne les comptabilise pas, mais je les crois plausibles.
Plusieurs milliards d'économies.
Troisième grand chapitre dans cette action en faveur de la production, la compétitivité.
Au feeling, quoi.
Nous devons améliorer, de manière générale, la compétitivité, comme on dit, c'est-à-dire la capacité, l'efficacité, l'attractivité de notre économie. Le premier facteur sur lequel nous allons agir, c'est l'énergie. Car nous avons en France un atout immense, disposant d'une énergie
nucléaire.
Bon marché, en plus d'être abondante, souveraine et décarbonée.
Nucléaire.
Nous devons davantage miser sur cet atout et remercier tous ceux qui ont, au travers du temps, permis l'édification de cette production d'électricité. Nous devons permettre aux industriels de bénéficier d'accords qui réduisent leur exposition à la volatilité des prix.
Hein ?
Plus d'une dizaine d'accords ou de contrats de long terme ont déjà été signés par les industriels avec EDF, à un coût de production, au coût de production du nucléaire. Mais au-delà de ces dizaines d'accords, je pense qu'on peut viser l'équivalent de 30 TWh de contrats d'ici la fin de l'année, soit près de 10% de la production nucléaire. Le deuxième facteur de compétitivité, c'est l'accès des entreprises au financement. Le rapport de Mario Draghi, qui devrait servir de référence à un très grand nombre des acteurs économiques et politiques dans notre Union européenne, le rapport de Mario Draghi a montré que nous devons d'abord mettre les financements européens au service de la croissance et des entreprises européennes. C'est dans ce but que le ministre de l'Économie, Éric Lombard, a lancé un label européen pour l'investissement de long terme qui permettra d'assurer le développement de produits d'épargne finançant notre croissance. Ce qu'on appelle le capital risque est un outil puissant pour l'innovation et la croissance des entreprises. Nous consacrerons 900 millions d'euros de financement en fonds propres supplémentaires à l'investissement dans les entreprises. Enfin, parler de financement, c'est s'attaquer à l'un des problèmes fondamentaux auxquels les entreprises, et notamment les PME, se trouvent confrontées, les retards de paiement, qui représentent aujourd'hui quelque 15 milliards d'euros de trésorerie. C'est une manne considérable et dont nous ne pouvons pas accepter qu'on baisse les bras en face des conduites qui la produisent. L'État est déterminé à renforcer les sanctions à l'égard des débiteurs en cas de retard de paiement de ces créances. À l'avenir, ces sanctions pourront aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires pour mettre fin à des pratiques qui fragilisent notre tissu économique. Il nous faut aussi une stratégie globale de redressement de notre commerce extérieur.
Là, il est.
C'est, vous le savez, un sujet, comme le savent quelques-uns d'entre vous, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup produit lorsque j'étais dans la responsabilité de commissaire au plan. Nous allons passer en revue toutes les filières déficitaires, repérer les produits les plus propices à une localisation de la fabrication sur notre sol, en vue de réduire nos importations. Nous devrons également soutenir nos filières d'excellence pour qu'elles le restent. Et donc des stratégies de filières associant les grandes entreprises et les pouvoirs publics locaux et nationaux devront rapidement être définies et mises en œuvre. L'État fédérera grandes entreprises, entreprises moyennes et entreprises débutantes.
Hein?
Il les réunira,
Mais
il ne peut pas faire tout seul. Et donc, nous avons devant nous un important enjeu de redéfinition d'une stratégie nationale de reconquête de notre commerce extérieur.
Okay.
Faut aussi que cela s'accompagne de changements dans nos modes de consommation, en encourageant davantage les circuits courts et les commerces de proximité. C'est pourquoi une taxe va être proposée sur les petits colis afin de protéger nos commerces et nos producteurs de la marée de concurrence déloyale qui les assaille.
Chinois. Le petit colis, c'est chinois.
L'une des clés pour la relance de la production, c'est l'innovation. Comme je l'ai annoncé, nous orienterons davantage les financements de France 2030 vers les secteurs prioritaires de l'intelligence artificielle et du cyber. Dans tous les secteurs de notre activité, l'intelligence artificielle peut et doit devenir un outil concret, utile, qui améliore la productivité des entreprises. On estime, dans les études les plus sérieuses, à 20% le gain de productivité lié à l'intégration de l'intelligence artificielle processus productifs.
On est sauvé.
C'est l'objectif que vise le plan qui a été défini, qui s'appelle « Oser l'intelligence artificielle ». Mais, Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, pour tenir le rythme de l'innovation, nous avons besoin d'ingénieurs et de techniciens. Nous avons sur notre sol des talents très nombreux, mais nous manquons cruellement, notamment de femmes ingénieurs.
Ça, c'est vrai, ça.
Et d'ici 2035, l'économie française devra recruter près de 100 000 nouveaux ingénieurs et techniciens par an. Alors, le plan filles et mathématiques que vous avez mis en œuvre est un plan très important. Il vise à encourager l'orientation des femmes, des filles d'abord et des femmes, vers les sciences de l'ingénieur et du numérique.
Mais ça existe déjà.
Enfin, la commande publique sera aussi un élément déterminant dans la reconquête de la production. Et pour cela, nous devons innover et, par exemple, ne pas craindre de réformer l'union des groupements d'achat public, l'UGAP, que connaissent tous les élus locaux, assouplir le cadre national afin d'éviter les lenteurs et les surcoûts dans les achats publics. Nous devons également changer les règles au niveau européen pour nous permettre d'acheter européen et de soutenir notre industrie dans un contexte géopolitique, comme on dit, dans un contexte de la planète nouveau. C'est l'introduction d'une véritable préférence européenne que nous appelons de nos voeux, que des critères de contenu local puissent être introduits dans les marchés publics, mais aussi dans les aides publiques ou dans les normes. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à vous parler un langage clair et vrai. Si notre vie politique est menacée de dissolution aujourd'hui,
c'est pas foufou, en vrai.
C'est aussi parce que nous craignons trop souvent de nommer les choses par leur nom, parce que nous avons cessé de faire de la vérité le critère qui nous permette d'orienter notre action. Hannah Arendt disait qu'un peuple à qui on a cessé de dire la vérité ne peut plus rien croire. Il est privé, disait-elle, non seulement de sa capacité d'agir, mais de sa capacité de penser et de juger. Ce que j'ai voulu faire en m'exprimant devant vous aujourd'hui, c'est permettre à tous de juger la gravité de la situation. La gravité de la situation.
Ça, on a compris.
D'examiner une proposition cohérente, un plan global d'action du gouvernement.
Global.
Dont nous avons la conviction qu'il est le seul qui puisse permettre à notre pays d'affronter ces défis. Défis que nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas voir.
Voilà.
Et ainsi donner à tous la capacité d'agir et d'avancer ensemble. J'ai voulu le faire très tôt dans l'année, beaucoup plus tôt que d'habitude. Plus de 2 mois avant les dates habituelles, pour que nous ayons plusieurs mois de réflexion et de travail. Toutes les idées d'amélioration seront les bienvenues. Ce plan, s'il est perfectible, nous ne demandons qu'à le perfectionner. Toutes ces idées seront examinées, qu'elles proviennent des partis politiques, des groupes parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, des partenaires sociaux, des collectivités territoriales ou des citoyens de notre pays. Mais améliorer ne peut pas signifier reculer, amoindrir ou atermoyer. Le gouvernement, il est bien sûr libre de ses moyens, mais il considère qu'il est devant une obligation de résultat.
Comme Max.
Un changement de pratique qui rende à la France son image et sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. Ce plan pour l'année 2026 n'est qu'un préambule.
Ah oui, oui.
Car c'est un ensemble de réformes de fond dont notre pays a besoin.
Mais on verra après.
Pas seulement pour faire des économies, mais pour rendre plus efficace, plus proche, plus réactive, plus souple, plus compréhensible et compréhensive toutes les organisations qui sont celles de l'action publique nationale et locale et de la solidarité. C'est un travail d'architecte dont nous avons besoin. Et l'année 2026, qui précède l'année 2027, si vous voyez ce que je veux dire, l'année 2026 se prêtera particulièrement à un tel travail de refondation. Nous devons jamais oublier qu'il n'y a pas beaucoup de peuples comme le nôtre. Pas beaucoup de peuples qui comptent autant de réussites scientifiques, techniques et industrielles.
C'est nous les meilleurs et c'est vrai.
Pas beaucoup de peuples qui portent un projet de société à vocation universelle, construit autour d'idées fondatrices comme la laïcité, une idée qui affirme qu'on n'a pas besoin, parce qu'on croit quelque chose, de vouloir obliger les autres à abandonner leurs idées. Cette idée qui fait que nous formons, c'est l'étymologie du mot laïcité, que nous formons un seul peuple. Toutes ces réussites ont scandé l'histoire et fait de notre pays une puissance. Parfois, souvent, la France a failli céder, mais toujours elle s'est reprise pour résister au totalitarisme, aux guerres nationales et européennes. Elle s'est reprise chaque fois pour résister à la force brutale. La mission des gouvernants, c'est d'identifier les risques, de les affronter, en mobilisant l'énergie du pays sans crainte et sans préoccupation personnelle. Alors, dans l'annonce de ce plan, y a-t-il des risques pour le gouvernement ? La réponse est : il n'y a que des risques. Le gouvernement n'a pas de majorité. Il arrive même que ses soutiens ne soient pas totalement convaincus. Tout concourt au fatalisme.
Ça taille.
À ce qu'on ne fasse rien, à ce qu'on décrète impossible les changements nécessaires.
Elisabeth, écoute.
Et qu'on laisse dériver les choses. Je vous rassure, le gouvernement le sait bien. Il sait parfaitement qu'il est à la merci des oppositions, autant que, ici ou là, des doutes de ses soutiens.
Mais Gérald aussi.
On voit cela depuis des années.
Ils n'écoutent pas.
Mais le gouvernement a le devoir, il a le désir et l'envie de renverser les obstacles, de rendre à notre pays ses raisons de vivre, les raisons d'y croire, raison de s'estimer notre peuple et de s'aimer.
Allez, François.
Et il n'a, le gouvernement, aucune autre préoccupation.
François, c'est fini.
Il ne cherche pas à se préserver. Il ne cherche pas à durer.
C'est bon.
Il veut changer les choses. Et pardonnez-moi de le dire ainsi, qu'importe le risque.
On t'excuse, mais c'est fini.
Par-dessus tout, le gouvernement croit.
Stop.
Et le gouvernement sait que toujours notre pays a su retrouver le chemin de sa liberté et reprendre son destin.
Et ça envoie des SMS. Tout le monde s'ennuie, là. François.
Nous sommes aujourd'hui. Nous savons que le chemin est difficile, que la voie est étroite.
La pente est raide.
Mais le chemin existe d'indépendance, de prospérité et de progrès humain. Et qu'ensemble, nous pouvons le choisir. Je devrais dire qu'ensemble, nous allons le choisir. Je vous remercie.
Il n'y a pas un « Vive la République, vive la France ». Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Qui vient parler ?
Maintenant, les ministres qui ont participé à ce plan vont s'exprimer.
Ouais.
Monsieur Bombard.
Non. Non, hein.
Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, après les saluts adressés par le Premier ministre.
Je pense qu'on va plutôt revenir sur les annonces.
Monsieur le ministre, vous avez parlé de basculement du monde.
Donc on sait quoi ?
Et l'urgence à maîtriser nos finances publiques s'impose dans un contexte où le monde est devenu, pour reprendre les mots du président de la République, un monde de prédateurs. Ce redressement de nos finances publiques...
Je fais un sondage.
En réalité, il vise d'abord à protéger notre économie, et donc les Françaises et les Français. Il vise à garantir notre souveraineté, vous l'avez dit, et nous souhaitons le faire grâce au dialogue le plus large avec les partis, avec l'ensemble des parties prenantes, qui est la marque...
Les modos, je vous laisse faire un sondage. Est-ce qu'on écoute tous les ministres ?
Alors, nous ne manquons pas d'aléas.
Où est-ce qu'on analyse ?
Un mot. D'abord, la consommation est atone, moins 0,2% au premier trimestre, probablement en raison de nombreuses incertitudes.
C'est Monsieur Lombard.
Le taux de change entre l'euro et le dollar s'est apprécié de 13% depuis
le
début de l'année, soit 16 centimes, ce qui pénalise nos performances à l'export. La guerre commerciale pourrait escalader si nous ne parvenons pas dans les jours qui viennent à trouver un accord équitable avec les États-Unis d'Amérique, sans citer les autres tensions géopolitiques au Proche et Moyen-Orient notamment,
sondage.
Qui constituent des facteurs d'instabilité.
Il y a un sondage, les amis.
Cependant, des éléments pourraient, quant à eux, soutenir l'activité. L'inflation a significativement baissé. Elle est revenue à 1% en juin, après 0,7% d'une année sur l'autre.
Je vais vous dire ce que j'en pense.
C'est une bonne nouvelle. En réalité, le pouvoir d'achat progresse. C'est l'INSEE qui le dit. Plus 2,5% en 2024. Et depuis le début 2025, plus 0,7%. Le taux d'épargne atteint son plus haut niveau depuis 45 ans, hors période Covid, 18,8%. Mais ce haut niveau, s'il permet d'amorcer une décrue, peut soutenir une reprise de la consommation. Enfin, l'assouplissement budgétaire en Allemagne.
En fait, je vais vous dire pourquoi il va y avoir rien d'annoncé. C'est-à-dire que dans la hiérarchie gouvernementale, aucun ministre normalement qui va suivre là peut annoncer des choses. Les annonces, elles sont réservées au Premier ministre, à François Bayrou. Là, on voit des chiffres qui viennent peut-être de peindre une situation économique, voilà, mais que vous connaissez si vous intéressez un petit peu à l'actualité. Ça me semble pas important. En revanche, ce qui serait intéressant, puisqu'on est sur Twitch, c'est de revenir sur les propos du Premier ministre que j'ai trouvé un peu décevant. Voilà. Et ce serait intéressant de voir ce qu'en disent les journaux d'ailleurs demain matin. Voilà. Il peut développer les annonces de Bayrou ? Non, il n'y aura pas de précision. Non, parce que par exemple, sur les chiffres, les milliards non calculés de Bayrou, Bayrou ne peut pas dire « moi, je n'ai pas calculé », et un ministre arrivé derrière dire « moi, j'ai calculé, je vous donne les chiffres », ça, c'est impossible, ce serait un affront pour Bayrou. Et ils peuvent pas annoncer de nouvelles choses. On peut écouter un extrait, vous allez comprendre.
75% de ces investissements sont faits hors de la région Île-de-France.
Franchement, ça, vous n'allez pas. Je vous laisse juste l'image de la conférence qui est en cours, voilà, et on va commenter dessus. Je note quand même que j'ai vu que le chat était un peu déçu des annonces, et je peux le comprendre. Le Premier ministre. Ah, on peut peut-être mettre les sous-titres d'ailleurs, ouais, ce serait marrant ça. Oh, on remarque, ouais. Ah. Où est-ce qu'ils sont les sous-titres là-dessus ? Là. Ah, non disponible. Oh, c'est pas drôle. Ils sont pas disponibles. On dirait que c'est pas possible. Ah, bah oui. Ok, dommage. Bon, bref. De toute façon, demain matin, on reviendra sur tout ça. Si jamais un des ministres qui intervient là maintenant, dit des choses nouvelles par rapport à ce qu'a dit Bayrou, ce serait une énorme surprise. Et je mangerai, pas mon chapeau, enfin, si vous pouvez manger mon bob, moi, je mangerai une feuille de papier à quatre. Okay. Il n'y a aucun monde où un gouvernement un ministre va dire des choses différentes de ce que Bayrou a dit, ou même un peu plus précises. Donc le Premier ministre a quand même passé 23 minutes dans l'introduction. Bon, on ne va pas se moquer de lui sur Twitch, on aime beaucoup faire des très longues introductions aussi, moi le premier, d'une demi-heure à une heure. Mais une longue introduction pour donner le contexte, pour dramatiser quelque part aussi. Pour dramatiser, pour dire la situation est extrêmement grave. Et c'est pour ça qu'il faut réagir. Et donc, on attend des annonces du coup très très fortes. Hein. Il a dit que notre pays était dans une situation qui était intenable. Il a pris l'exemple récent de la Grèce. Hein. Il a évoqué le risque de banqueroute pour notre pays, en évoquant pour le coup des choses qui sont vraies, hein, qui ne peuvent pas être remises en cause. Le fait que nous avons 3 300 milliards de dettes actuellement, que la charge de la dette est gigantesque, qu'elle est en passe de devenir le premier poste de dépense de l'État. À un moment, c'est surréaliste de se dire que juste les intérêts de la dette chaque année, hein, de la France, c'est quasiment le premier poste budgétaire de l'État. Il a fait le calcul, en 2029, on sera à peu près à 100 milliards d'euros de dépenses chaque année, juste en intérêts de la dette, et ce sera de loin le premier poste budgétaire de l'État, devant l'éducation, devant la défense, tout ça. Donc ça, c'est le constat. Personne ne remet ça en cause aujourd'hui, quoi. Évidemment, c'est sur les solutions pour mettre fin à cette situation qui est mortifère, qui est problématique, qu'on va être d'accord ou pas d'accord, quoi. Il a même parlé de la dernière station pour notre pays avant la falaise. Donc il a vraiment dit « Waouh, l'heure est super grave ». Et donc moi, je m'attendais du coup à autre chose derrière, quelque chose de beaucoup plus ambitieux et du coup même beaucoup plus radical, et qui allait provoquer encore plus de colère que je n'ai vu dans le chat. Voilà. Et finalement, les mesures annoncées ressemblent beaucoup à ce qui a été annoncé ces dernières années. Voilà. On est sur des petits changements, des petites améliorations. Voilà. Quelqu'un dans le chat tout à l'heure a dit, pour résumer, c'est comme un petit coup de Chatterton sur un seau troué de toutes parts. Moi, j'étais assez d'accord. Voilà, vous voyez, les ministres parlent très très peu et pas longtemps. Là, on est sur le budget. Je serais surpris qu'on apprenne quelque chose. Ouais, pour le coup, on va vraiment rien apprendre. Ouais. Donc, on a attendu les annonces avec impatience, d'autant plus avec impatience que finalement, c'est pas très très ambitieux, quoi. Bon, il a fait au début dans sa longue introduction le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé là. Il parle d'un peuple qui s'est habitué au fait que l'État paye tout. Hein, nous sommes devenus accros à la dépense publique. C'est un discours qu'on entend depuis très très longtemps. On est le pays au monde où la somme des impôts et des charges sociales est le plus élevée. C'est faux. C'est faux. Nous sommes un des pays de l'OCDE, oui, c'est vrai, où la somme impôts plus charges sociales est la plus élevée. Ça, c'est vrai. Mais à un moment, c'est dommage de ne pas être plus précis que ça quand on est Premier ministre de la France. Il était un peu approximatif sur le sujet. Le taux impôts plus charges sociales en France est extrêmement élevé. C'est un des plus élevés des pays de l'OCDE. Après, il a corrigé le plus élevé des pays de l'OCDE, ce qui est faux aussi. Hein, c'est un des plus élevés. Au début, il a dit c'est même on est le pays au monde où cette charge est la plus importante, ce qui est, pour le coup, qui est complètement faux. L'OCDE, c'est les pays les développés les plus riches, si tu veux, pour faire très simple. Donc, une fois qu'il a fait ce constat, il a dit deux plans d'action. Un plan pour dire stop à la dette, voilà, et un plan pour dire en avant la production. Alors, le plan pour dire stop à la dette, déjà, je me dis, waouh, Bayrou, là je me dis, Bayrou va s'attaquer à cette dette gigantesque de 3 300 milliards d'euros. Voilà. Et il dit tout de suite, non, je ne vais pas m'attaquer à la dette. Je vais arrêter l'augmentation de la dette en 4 ans, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Il dit, si on arrive à faire revenir le déficit dans les 3 300 milliards d'euros. Si j'arrive à faire revenir le déficit à 3% du PIB, il dit la dette n'augmentera plus. Bon, déjà, l'ambition, elle est relativement limitée. Donc, stabilisation des dépenses publiques, tout le monde doit participer à l'effort, a-t-il dit. Travail, compétitivité, entreprise préservée. Ça, c'est la philosophie. Alors, il a annoncé un plan en 4 années. Il a dit en 2026, il y aura des trucs. En 2027, il y aura des trucs. En 2028, il y aura des trucs. 2029, il y aura des trucs. Surprise, il n'a annoncé que les mesures pour 2026. Et encore avec beaucoup de flou et d'imprécision sur les mesures. Ça va être discuté, on va en parler, on va voir avec les partenaires sociaux, on va voir avec les ministres concernés et avec les sommes représentées. Des milliards. Je n'ai pas fait le calcul. Ça, c'était un peu décevant. Moi, j'étais un peu déçu en tant que journaliste, quoi. Donc, 2026, 40 milliards d'euros, ce qui était annoncé, c'était le chiffre qu'il avait annoncé. Voilà, un peu plus, même 43,8, parce que le président Macron vient d'annoncer qu'il allait augmenter les dépenses de défense. Donc, les mesures annoncées, l'État va montrer l'exemple. 3 000 fonctionnaires de moins, j'entends, notamment avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. Bon, ça, c'est pas très très nouveau. 3 000 fonctionnaires, je ne sais pas combien de fonctionnaires exactement en France, mais je ne suis pas sûr que ça fasse la différence. Les propriétés immobilières de l'État, il y en a trop, on ne sait pas vraiment lesquelles. On va les vendre, ça c'est un truc que j'ai entendu 1000 fois. Bon, je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment la différence. Suppression des agences improductives, les agences 1. 6 millions de fonctionnaires, tant que ça ? Non, 10 millions c'est trop, non. Non, on est autour de un peu moins de 6 millions de fonctionnaires, je crois. Ouais. Voilà, selon l'INSEE, merci M.S. Carpon, 5,8 millions d'agents travaillaient dans la fonction publique fin 2023. Merci beaucoup. Donc voilà, 3 000 sur près de 6 millions. Hein. Mascarpone. C'est pas foufou. Les propriétés immobilières de l'État, j'ai entendu ça 1000 fois, ça va pas être foufou non plus. Hein. L'espèce de ça, c'est l'argent magique, mais en fait, non, ça, j'y crois pas. Les dépenses sociales, là, ça devient concret. Parce que là, effectivement... Les dépenses sociales de notre pays sont très importantes. C'est le choix que nous avons fait, hein, historiquement, d'un pays qui redistribue, un pays qui protège. Alors, certains peuvent estimer qu'il ne protège pas assez, qu'il devrait protéger plus, d'autres qui devraient protéger moins. Mais c'est historiquement, philosophiquement, la société qu'on a choisie en tant que Français et Françaises au fil des décennies. Alors, donc, du coup, là, il y a des sources d'économies potentielles énormes, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences extrêmement importantes sur la vie quotidienne. Il annonce... limiter la hausse des dépenses sociales. Voilà, ça devrait monter de 10 milliards en 2026. Ça ne montera que de 5 milliards. Il parle de responsabiliser les patients. Donc, je crois, je ne suis pas un spécialiste des questions médicales, mais il a parlé d'un espèce de plafond, hein, où, d'après les chiffres qu'il disait, un patient n'allait devoir payer que 50 euros maximum par an. Ce plafond allait doubler à 100 euros. Voilà. Il veut plus de vaccination, du coup moins de malades. Voilà. Je pense, il a parlé de la grippe, notamment, le plafond qui passe de 50 à 100 euros. Voilà. Il a parlé de l'ALD. Alors, l'ALD, pour ceux qui ne savent pas, c'est les affections de longue durée. Hein, ce sont bah, les gens qui ont des cancers, qui ont... qu'est-ce qu'on a encore toutes les affections de longue durée. Vous avez des, il y a sûrement des gens dans le chat qui sont concernés. Sclérose en plaques, oui. Les pathologies lourdes. Quoi. Diabète, oui. Diabète, tout à fait. Maladie chronique. Ouais. Épilepsie. Oui. Oui, les problèmes cardiaques. Les gens quoi, à un moment qui ont des problèmes cardiaques, qui doivent prendre des médicaments pour éviter un nouvel accident. Oh, oui. Oui, Alzheimer, bien sûr. On me dit l'asthme. Ça, bon, je ne vérifie pas l'info, mais peut-être l'asthme est peut-être concerné, effectivement, oui. Voilà. Donc, les ALD. Donc là, il dit en France, 20% des personnes, des Français, sont concernés par des ALD. Ce matin, on l'a lu le chiffre, on l'a trouvé fou. On allait le vérifier, oui, c'est vrai. Ce sont les chiffres officiels, 20% des Français sont en situation d'affection de longue durée. Voilà. Donc c'est un certain coût. Et il dit, on a vérifié ce chiffre ce matin. On a voulu le débunker parce qu'on le trouvait fou, mais c'est vrai. Et Bayrou nous dit, il n'y a que 5% des Allemands contre 20% des Français qui sont en ALD. À mon avis, les Allemands ne sont pas moins malades que nous. L'analyse du Premier ministre, elle me semble un petit peu étrange. C'est juste que je pense qu'en Allemagne, on a décidé de moins protéger et de moins rembourser les gens qui souffrent d'ALD. Quoi. Hein c'est pas, hein, ils ne sont pas moins malades que nous. Donc il a dit que les médicaments hors affection principale n'aurait plus un remboursement à 100%. Sauf que vous avez été plein dans le chat à me dire « mais c'est déjà le cas, alors ça j'aimerais bien le vérifier ça ». Parce que ça, c'est un truc que vous m'avez dit, je l'ai lu dans le chat tout à l'heure, je n'ai pas interrompu le... Et vous m'avez dit « mais c'est déjà le cas, il raconte n'importe quoi, alors moi je vais vérifier cette info ». Remboursement, ce serait fou, ça voudrait dire qu'il serait gouré sur un truc énorme. Oh, ça me paraît bizarre. Médicaments, et vous m'avez dit « mais non Samuel, c'est déjà fait ça ». Ordonnance Bizone. A priori, c'est déjà le cas. Alors, on va débunker. Hein. Ça va. Regardez, je vous montre mes recherches. Voilà. L'ALD exonérante donne droit à un remboursement intégral des soins médicaux, examens, médicaments en rapport avec cette ALD. C'est une mutuelle, attends. Amélie. Ah ben, on est bien là. On est sur le site d'Amélie, là. En général, c'est assez carré, ça. Non, je ne donne pas mon code postal, je suis en Corse, là. Ah oui, ordonnance Bizone, oui. Alors, les soins, les médicaments en soins, en rapport avec l'ALD, remboursés à 100%. Voilà. Et, en revanche, certains frais restent à votre charge, même si vous êtes en ALD. Déjà, les dépassements d'honoraires facturés par les professionnels de santé ne sont pas remboursés. Le forfait hospitalier, c'est pas remboursé. Ouais, il reste des frais quand même. Voilà. Et Bizone. Voilà. L'ordonnance Bizone est divisée en deux parties pour distinguer les médicaments et examens pour votre ALD remboursés à 100%, les médicaments et examens liés à d'autres maladies remboursés au taux habituel. Bah, manifestement, si je ne me trompe pas dans mon analyse, le Premier ministre s'est trompé. Hein ? C'est-à-dire que les médicaments hors affection principale sont remboursés comme les autres et pas à 100%. Donc là, effectivement, vous avez débunké en direct tout à l'heure et je pense que manifestement, d'après nos recherches, vous avez raison. À moins que l'ordonnance Bizone ne soit pas répandue et que les médecins ne l'utilisent pas beaucoup. Peut-être. Peut-être que beaucoup de médecins ne font pas d'ordonnance Bizone et font une ordonnance 100% pour le tout. Ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils souhaitent aussi réduire le nombre de personnes en ALD, si j'ai bien compris. Toine, ce serait intéressant de voir ça. Non, c'est très répandu, c'est utilisé. J'ai toujours eu, moi. D'accord, bon, donc il s'est trompé. Voilà. Je suis professionnel de santé, l'ordonnance Bizone est utilisée obligatoire. Merci Alex Mio. Bon, d'accord. Bon, bah, le Premier ministre s'est trompé. Voilà, le Premier ministre s'est trompé. Hop. Je vous mets pour le fun la la conférence qui est en train de se terminer, je pense, avec les ministres. Voilà. Donc, à voir. Donc, pour les personnes qui sont en affection de longue durée, notamment dans le chat, eh bien, on vérifiera ce qui va être décidé, annoncé, parce qu'évidemment, il n'a pas été précis sur les maladies qui pourraient être sorties, notamment de ces remboursements 100%. Et puis, il a aussi dit qu'il y avait trop d'arrêts maladie en France. Hein. Voilà. Et il a notamment dit qu'il y avait un problème, c'est qu'au bout de 30 jours, quand on voulait reprendre le travail, il fallait obligatoirement une visite du médecin du travail. Or, il y avait de moins en moins de médecins du travail. Du coup, il y a des gens qui voulaient retravailler et qui ne pouvaient pas, faute de visite médicale. Voilà. Et dans le chat, certains m'ont dit, c'est une erreur. C'est pas 30 jours, c'est 60 jours. Voilà. Donc ça, je vais le débunker aussi. Voilà. Alors, arrêt de travail, de travail, reprise, visite médicale. Bon, ça vous montre aussi comment on peut vérifier des infos. Hein. Voilà. Alors, certains disaient 60 jours tout à l'heure. Certains disent dans le chat maintenant, non, c'est 30 jours. Voilà, bah, servicepublic.fr, hein. Carré. Arrêt maladie, reprise du travail du salarié. J'accepte. Ah, il faut cliquer sur les trucs. Il y a une loi en 2022. On fait ça, par exemple. OK. Dans quel cas la visite médicale de reprise de travail était obligatoire? Voilà, accident de travail ayant arrêté au moins un arrêt d'au moins 30 jours. Et maladie professionnelle, quelle que soit la durée. OK. Ok. Donc là, a priori, il ne s'est pas trompé là-dessus. Hein, comme le dit Seldom, ça dépend peut-être des accords de branche, mais dans ma boîte, c'est bien 30 jours. Ok. Accident de travail, 30 jours. Congé maternité obligatoire, autre, 60 jours. Ah, quand c'est un accident de travail, c'est 30 jours. Et autre, c'est 60 jours. Donc, il semblerait que le Premier ministre se soit partiellement trompé. Ok. Donc, vous aviez raison tout à l'heure dans le chat. Bon, en tout cas, c'est un peu flou. Enfin, il a annoncé quand même son intention de réduire le nombre d'arrêts maladie en France. Il trouve qu'il y a trop d'arrêts de maladie dans notre pays, forcément. Ça fait des économies. Hop, 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 hop. Pourquoi c'est tout grisé ça? Ah, je suis sur France Info, c'est pour ça. Hop, la communication du gouvernement, elle est là. Voilà. Pour le plaisir. Voilà. Ok, donc des petites approximations. Ce qui m'a encore plus gêné, c'est quand il disait, voilà, on va prendre une décision et ça va faire des économies, des milliards, mais par contre, je ne sais pas combien, je n'ai pas calculé. Hein. Alors, un mot qu'on attendait très important, c'est année blanche. Année blanche, l'année blanche, c'est quoi? Sur les riches, il a dit quoi? Je vais revenir dans un instant, Améda. Il a prononcé ces mots qui étaient très attendus. Il y aura une année blanche en 2026. Année blanche, c'est quand on décide qu'il n'y aura aucune revalorisation, même pour compenser l'inflation, des retraites, des allocations chômage, du RSA. On n'augmente pas, hein. Retraite non indexée sur l'inflation. Mais il a aussi dit, bon, en même temps, on est sur une inflation faible de l'ordre d'1%, donc c'est kiff-kiff bourricot. Il dit finalement, puisque l'inflation est faible de l'ordre d'1%, ce ne sera pas vraiment une diminution. Et en même temps, dans une phrase après, il dit, mais ça va faire 7 milliards d'économies. Ah, d'accord, ok. Donc ça ne fait pas de différence, mais ça fait quand même 7 milliards en moins quand même pour les gens. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit là, précisément là-dessus? Barème de l'impôt sur le revenu maintenu, donc qui ne sont pas revalorisés. Ça veut dire que tous ceux qui ont la chance de payer des impôts, les gens qui ont des petits revenus ne payent pas d'impôts en France, d'impôts sur le revenu d'hier, eh bien, ils vont payer plus d'impôts. Normalement, chaque année, le barème de l'impôt de l'hier, de l'impôt sur le revenu, il est revalorisé à la hauteur à peu près de l'inflation pour que, par le simple mécanisme de l'inflation, les gens ne payent pas plus d'impôts, voilà, alors qu'ils ne gagnent pas plus. Hein. Bah, cette année, 2026, il n'y aura pas d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Ça fait des économies pour l'État, mais en fait, même, même si tu payes le même chiffre d'impôt que l'année d'avant, comme il y a eu un petit peu d'inflation, en fait, tu payes un peu plus, relativement. Voilà. Voilà. Ah, ouais, exactement, comme disent de tailleur 49. Voilà, si t'es pas augmenté de l'inflation de 1%, comme c'est pas compensé par le barème, donc tu vas payer un peu plus d'impôts. Ça, c'est pour tout le monde. Pour ceux qui payent de l'impôt. Accentuation de la lutte contre la fraude fiscale. Bon, ça mange pas de pain, ça. Oui, on a à peu près, il y a 15 milliards d'amendes chaque année par rapport à la fraude fiscale. Et en fait, on en collecte, on en recouvre que 11 milliards. Ça ne va pas, donc faut que ça change. Bon, très bien. Il a pas dit vraiment comment il allait faire, mais bon. Donc, si j'ai bien calculé, il pense qu'il va trouver 2, 3, 4 millions là-dessus, quoi. Niche fiscale et sociale, on en a parlé ce matin. C'est vrai que là, il y a une vraie source d'économie. Il y a des sommes énormes qui sont consacrées à ce qu'on appelle les niches fiscales, hein, qui échappent totalement ou partiellement à l'impôt pour les entreprises. Pour... Ce n'est pas les aides, hein. Ce n'est pas les aides aux entreprises. Le chiffre de 211 milliards, c'est encore autre chose. Pour les entreprises et pour les particuliers, par exemple, une baisse d'impôt pour compenser notamment les charges sociales pour les gens qui emploient une femme de ménage, une nounou, un jardinier, ce genre de choses. Hein. Ça, c'est pour les particuliers. Pour l'entreprise, il y a des choses aussi, quoi. Là, il a annoncé que... qu'est-ce qu'il a dit précisément qu'on allait regarder. Non. Pas d'annonce précise. Est-ce que les particuliers qui embauchent en déclarant donc une femme de ménage, est-ce qu'ils vont continuer à avoir une baisse, un petit crédit d'impôt pour compenser les charges sociales notamment, ou pas? On va regarder. Bon. En revanche, il a dit, alors c'est une des annonces les plus fortes de Bayrou, là. L'abattement. L'abattement des journalistes... Bon, ça, c'est un truc intéressant. Moi, ça fait longtemps que j'en profite plus pour X raisons. L'abattement des journalistes, il a été très intéressant il y a très longtemps. Vous n'étiez pas né. À une époque, l'abattement des journalistes, c'était 30% des revenus, c'était surréaliste. Un journaliste avec la carte de presse, c'était même pas la carte de presse, c'est le statut de journaliste d'ailleurs, pour être tout à fait précis. 30% des revenus annuels échappaient à l'assiette de l'impôt. C'est pas 30% de baisse d'impôt. Hein. C'est... Vous preniez le revenu imposable et en fait vous ne déclariez que les deux tiers et vous étiez imposé sur les deux tiers. Hein, c'est l'assiette. Voilà. Aujourd'hui, donc ça a été incroyable pour les gros salaires de journalistes. À une époque, c'était fou ça. Moi, j'ai pas connu ce système-là. Quand je suis devenu journaliste, c'était déjà plafonné, enfin je crois. Et ça a été plafonné à 7 650 euros. Donc c'est pas moins 7 650 euros d'impôt. C'est vous prenez votre revenu annuel. Vous enlevez 7 650 euros de ce revenu annuel et vous êtes imposé sur le reste. Donc ça a été extrêmement baissé. Et puis ces dernières années, ça a été encore plus baissé. Cet abattement de 7 650 euros par an, il est réservé vraiment maintenant aux salaires petits et moyens. Et passé un certain niveau de salaire pour les journalistes, vous n'avez plus le droit à cet abattement. Voilà. Bon, ça c'est... Ouais, en plus des 10%. Ça c'est un avantage pour les journalistes. Exonération de 7500 balles qui ne rentre pas dans le calcul de l'impôt, c'est pas mal, je suis tout à fait d'accord. Alors, il faut savoir que ça ne touche même plus les gros salaires journalistes, ils n'ont plus le droit. Voilà. Voilà. En plus des 10%, ouais. Mais c'est une niche fiscale, ouais. Mais à une époque, c'était bien mieux que ça. À une époque, c'était 30%, c'était gigantesque. C'était 30%. Pourquoi cela, historiquement? Alors, ça, c'est un truc qui date de 1945. C'est là, au moment où, après la Seconde Guerre mondiale, je vous explique la justification historique, mais qui, à mon avis, devrait être... Je suis d'accord avec vous, ce truc devrait être supprimé aujourd'hui. Pour les frais de documentation? Non, pas du tout. En fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ça a été assez compliqué économiquement pour les journaux de se relancer et de se créer même, puisque tous les journaux de collaboration avec l'occupant nazi avaient été interdits et supprimés, sanctionnés, bien sûr. Et donc, il fallait relancer la machine avec des médias indépendants, souvent issus de la résistance. Et en fait, ces médias n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc globalement, de toute façon, les journaux, à l'époque déjà, et encore plus aujourd'hui, n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Les journaux de presse écrite que je vous lis le matin sont des entreprises en crise, hein, qui gagnent très peu d'argent. Et donc, en fait, l'État a décidé à l'époque, pour aider les journaux et les médias, qu'on allait aider les journalistes avec un petit abattement fiscal, enfin un gros même. Comme ça, les patrons de presse pouvaient dire, écoute, je te paye pas beaucoup, mais tu vas pas me casser les bonbons. De toute façon, tu as un abattement de 30%, donc ce que je te donne pas d'un côté, l'État te le donne de l'autre. Voilà. Historiquement, c'est ça. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'est un peu éloigné de tout ça. Ce serait assez normal que les journalistes soient traités comme les autres salariés, à ceci près qu'aujourd'hui, cet avantage ne touche que les, ne concerne que les salaires, les petits salaires et les moyens, et les salaires moyens, quoi. Voilà. Bon, c'est un détail par rapport au reste, mais puisque vous m'interrogez là-dessus, je vous réponds. Pour ceux que ça passionne, hein, la cité au cœur, c'est quoi un salaire moyen de journaliste? Tu iras chercher mon chouchou, tu as tout sur Internet, tu vas trouver tout sur Google, tu vas trouver le niveau de, le niveau de salaire que ça concerne. Si vraiment ça t'empêche de dormir, tu vas trouver ça rapidement en 2 secondes sur Google. À un moment, il faut aussi apprendre à chercher les informations à l'heure d'Internet. Vous trouvez ça en 2 clics sur Internet. Chacun doit faire des efforts pour les trucs qui les passionnent, quoi. Voilà. Donc, moi, je reviens sur ce qui m'intéresse le plus là, parce que ça, c'est nouveau. L'abattement de 10% pour les retraités est supprimé. Ah, ça, c'est une petite révolution, ça. Ça, c'est une petite révolution. C'est-à-dire, les retraités, comme les salariés, sauf les salariés qui sont aux frais réels, qui décident d'opter pour les frais réels, ont un abattement de 10%. Voilà. Alors là, on peut dire, bah, pourquoi les retraités, pas pour tous, je vais préciser, pourquoi les retraités ont un abattement de 10%? Voilà. Eh bien, ils sautent. Ils sautent. Ils sautent partiellement. Il est remplacé, cet abattement de 10%, si le texte est voté. Hein. N'oubliez pas que c'est un projet de loi. Il faut que ça passe au Parlement, à moins que ça passe par 49.3. Il faut que les parlementaires, les sénateurs, votent tout ça. Ce ne sont pas des décisions. Hein. Tout ça va être proposé à l'automne au Parlement, mesdames et messieurs. Donc tout ce qui a été annoncé, là, il y a peut-être la moitié, un quart, 66% qui ne vont jamais être appliqués, voire 100%. Voilà. Ordonnance, c'est pour autre chose, c'est pour un autre aspect. Les ordonnances, c'est pour un petit... Une toute petite partie de choses qu'il a annoncées, j'en parlerai plus tard. Voilà. Donc, si c'est voté, eh bien, cet abattement sera remplacé par un forfait annuel qui va protéger les petites et moyennes retraites, et donc cet abattement de 10%, il sera essentiellement supprimé pour les plus grosses retraites. Ce que je trouve assez OK, en vrai. Voilà, assez OK en vrai. Pour moi, c'est l'annonce la plus claire. Pour le coup, ça a été assez détaillé par le ministre. Pour les niches, par exemple, c'était extrêmement flou. Voilà. Et pour les plus fortunés, quelqu'un me disait, et les plus riches, qu'est-ce qui est décidé? Pour les plus fortunés, pourquoi il reparle François Bayrou là? Ah, parce qu'il répond aux questions des journalistes. Ouais, on va pas pouvoir faire toute la conférence. Pour les plus fortunés, il y aura une contribution de solidarité. Combien? Ben, on ne sait pas. Il n'a pas dit. Voilà. Quelle heure il est là? Parce que les questions des journalistes, c'est pas mal ça. Allez, on se fait un petit coup là.
On va pouvoir discuter de tout sur ce plan ou d'ores et déjà vous fixez ce qui n'est pas négociable et ce qui peut l'être.
Nous sommes devant une question très simple, basique. Est-ce que ça peut durer comme ça? Nous sommes tous citoyens. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont dans des situations de responsabilité, parce que tout citoyen est en situation de responsabilité. Est-ce que ça peut durer comme ça? Est-ce qu'on peut rester devant cette dérive qui menace pas seulement la réputation de notre pays, mais son équilibre? Et quand je parle de notre pays, je ne parle pas des pouvoirs publics. Je parle de chacun des foyers qui composent notre nation. Chacun des individus. À plus forte raison, chacun des jeunes. J'ai très souvent montré à quel point la désinvolture générale ou l'absence de, c'est pas de, de prise de conscience, a fait qu'on a accumulé sur les épaules des plus jeunes une charge qui va les bloquer toute leur vie. Il y a des gens qui s'en fichent. je n'appartiens pas à cela. Je sais très bien que le plan que nous avons présenté est un plan extrêmement exigeant. La preuve, personne ne l'a jamais fait. Mais parce que personne ne l'a jamais fait, depuis des décennies, on laisse le pays s'enfoncer, s'enliser.
Bon, excusez-moi, c'est très irrespectueux ce que je fais, mais vous n'apprendrez rien de plus que ce qui a été dit pendant le discours du Premier ministre tout à l'heure. Voilà. De toute façon, demain matin, dans la revue de presse, on reviendra sur ce qui a été rajouté. Mais, par contre, pour ceux qui se moquent un petit peu sur le débit du Premier ministre, je vais vous dire un truc qui est très très simple en fait. Certains disent « Ah, tu l'as mis en 0,5, tu l'as mis en 0,25, il répond super doucement, il est endormi, je m'endors, etc. » François Bayrou est un ancien bègue. C'est quelqu'un qui a dû lutter contre un bégaiement quand il était plus jeune. Et il a dû apprendre à lutter contre ce handicap de la parole. Voilà. Et en fait, cette façon qu'il a de parler doucement, voilà, en fait, c'est tout simplement parce que M. Bayrou a appris à ne pas bégayer. Voilà, et il a ce débit. Voilà, depuis toujours. C'est pour ça qu'il parle doucement et qu'il parle lentement. C'est pas une question d'âge. Moi, je l'ai interviewé il y a très longtemps, il y a genre 20 ans, en interview, et on avait genre 7 minutes ensemble, et j'ai pu lui poser deux questions, parce qu'en fait, il était super lent, quoi. Et en fait, on m'a expliqué pourquoi. Donc voilà, c'est un handicap qu'il a réussi à surmonter et qui lui donne ce phrasé un peu particulier, et c'est pour ça qu'il parle tout doucement. Donc on va pas se moquer de ça, évidemment. Bon. Donc, je vous le disais, quelque chose sur les retraités, a priori sur les retraités les plus aisés, les fameux aisés, et il a dit, pour les plus fortunés, contribution de solidarité, mais il n'a pas précisé laquelle. C'est là où moi je me permets d'être un peu déçu de l'intervention, c'est que sur des choses importantes comme ça, il dit pas précisément, il dit pas combien, il dit pas qui. Là, bon, on reste un peu sur sa fin. Voilà. Patrick Cohen me dit, un bègue n'est jamais ancien, ça c'est intéressant ce que tu dis. Quand on l'est, on le reste jusqu'à la fin de sa vie, voilà. Je le sais, parce que je le suis aussi, nous avons tous nos trucs et astuces pour éviter de bégayer, de buter sur des mots, mais en situation de stress, il est évident que ça revient comme un cheval au galop, voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça que M. Bayrou parle doucement. Merci Patrick pour cette précision. Donc, voilà, bon, on verra demain les journaux, peut-être que je me trompe, peut-être que les journaux vont dire demain matin, oh, c'est incroyable, peut-être que l'Humanité, le Figaro, l'Opinion, les Échos, Libé, le Parisien... vont nous dire demain, c'est incroyable, il a dit des choses, des folies, c'était super clair, super précis. Je serais très surpris. Hein. Je pense que ça manque d'ambition, ça manque de précision. Je reste un peu sur ma faim. Donc finalement, sur le côté, on va dire stop à la dette, c'est tout. Demain matin, 9h, c'est tout. Voilà. Donc l'État va montrer l'exemple. On va supprimer 3000 postes de fonctionnaires sur presque 6 millions. Des choses en matière de santé dont je vous ai parlé, sur l'ALD, mais sans préciser. La responsabilisation des patients. Moins d'arrêt maladie, mais comment, on ne sait pas. L'année blanche, ok. Alors ça, d'accord. L'année blanche, ça, on sait combien ça rapporte. Il a dit c'est 7 milliards. Là, c'était assez précis. Mais 7 milliards, on n'est pas à 40... combien il veut économiser ? 43 milliards ? On n'est pas à 43,8 milliards, quoi. Donc, je ne sais pas bien comment il arrive à ce calcul. Il n'a pas toujours été précis. Et puis, il y a le deuxième volet qui est le volet production. En avant la production, il a dit il y a deux volets. Il y a un volet, on va dire stop à la dette. Et il y a un deuxième, c'est en avant la production. Il faut travailler plus. Voilà. Les Français ne travaillent pas assez comparé à leurs voisins, notamment voisins allemands, à l'exemple qu'il a beaucoup utilisé. Voilà. Et il a dit il faut que le taux d'emploi des jeunes soit plus élevé. Bon, ben on sait qu'on a un problème avec l'emploi des jeunes, nous, le chômage des jeunes depuis très longtemps. Et que le taux d'emploi des seniors soit plus élevé. Bon, ben ça, tout le monde le dit depuis toujours. Quand les entreprises françaises arrêteront de se débarrasser des seniors, bon, ben super, ce sera formidable. Mais je ne vois pas ce qui les inciterait à le faire, alors que ça fait des années qu'on dénonce ça. Et pour les plus jeunes, c'est pareil, on a un taux d'emploi des jeunes qui est assez faible en France, et il n'a pas dit comment il allait le faire. Voilà. Il a juste dit, c'est pas normal qu'il y ait plein de postes à pourvoir en France et qu'ils ne soient pas pourvus, voilà, en mode, oh, vous êtes un petit peu difficile, les gens, là, de ne pas vouloir travailler, alors qu'on sait que c'est plus compliqué que ça. Les postes, ils ne sont pas forcément dans ta zone géographique. Parfois, ils sont à des centaines de kilomètres. Parfois, ils ne répondent pas du tout à ta formation. Enfin, vous connaissez ce sujet autant que moi. Et puis, même si tous ces postes étaient pourvus, ça ne réduirait pas... Le chômage à la hauteur espérée. Quoi. Mais c'est un discours qui est très très vieux, ça. En revanche, il a annoncé effectivement qu'il fallait réfléchir à une nouvelle assurance chômage qui est déjà beaucoup moins généreuse. Hein, sous le président Macron, l'assurance chômage a été révisée à plusieurs reprises, moins généreuse. Voilà. Il a dit, je vous assure que les journaux vont vous en parler demain, un nouveau tour de vis annoncé sur l'assurance chômage. Voilà. Avec peut-être des délais d'indemnisation moins longs, plus de mois de travail nécessaires pour y avoir droit. Donc, il n'a pas donné de précision, donc on va attendre. Un droit du travail plus souple. Hein, voilà. Et à ce propos, il a dit, ça c'est un chiffre dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, il y a 211 milliards d'aides aux entreprises chaque année en France. C'est énorme. 211 milliards d'euros d'aides aux entreprises chaque année. On va faire un deal. On va baisser ces aides aux entreprises. Lesquels ? Il n'a pas dit. Quel montant ? Il n'a pas dit. C'est là où je suis un peu embêté, moi. Et en échange, aux entreprises, on va donner plus de liberté. On va baisser les obligations, les contraintes, voilà, pour les petites, les moyennes et même les grandes entreprises. Pourtant, parfois, les normes, les règles en matière de droit du travail, tout ça, bon, bah, c'est pas forcément anodin, mais bon. Alors, quelle souplesse ? Vers quel système on va ? Il n'a pas dit. Voilà. Là, pour moi, c'était un peu flou. Voilà, après, il a été beaucoup plus large, encore un peu plus général, plus de compétitivité. Il faut redresser la balance du commerce extérieur. Il faut changer nos modes de consommation. Une vraie annonce, les taxes sur les petits colis, notamment, comment on dit, Chine, c'est ça, et comment Temu. Voilà, les petits colis. Voilà, là, il y aura une taxe. Voilà, est-ce que il y aura une taxe aussi sur les entreprises françaises qui envoient des petits colis ? Comment ça s'appelle le truc de bouffe, là ? Les plats à cuisiner à la maison, là. Non, HelloFresh. Bon, là, c'est pas une boîte chinoise. HelloFresh, par exemple. Est-ce que HelloFresh, c'est un petit colis, ça ? Est-ce qu'il y aura une taxe sur HelloFresh, par exemple ? Ouais, ça, voilà. Il a pas dit entreprise chinoise, il a pas dit entreprise étrangère. C'est assez gros comme colis ? Ah bon, c'est des gros colis ? Bon, d'accord. Bon. Parce que qu'est-ce que c'est un petit colis ? Il n'a pas précisé. C'est allemand, HelloFresh ? En plus, c'est allemand. Bon, taxons, alors on s'en fout. Alors, je blague. D'accord. C'est des gros colis ? Ouais. Mais il n'a pas précisé qu'est-ce que c'est un petit colis. Bon, à voir. Voilà. Il a dit, oui, il faut plus de filles ingénieures, de femmes ingénieures. Mais bon, ça, c'est un truc qui est déjà lancé. Il y a déjà un plan pour soutenir ça. Voilà. Il a évoqué, enfin, le risque pour le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a un risque pour le gouvernement ? C'est ce qu'il a dit à la fin. Il a dit oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à la rentrée, à l'automne, eh bien, le Parlement va devoir se prononcer sur ce projet de loi, qui devra être beaucoup plus précis que ce qu'on vient d'écouter. Parce que là, il y a beaucoup de flou. Hein. Et là, un projet de loi, par contre, il doit préciser. Il doit dire, là, par exemple, la taille des colis, quelles entreprises sont concernées, quelles aides aux entreprises on supprime, quel contrat du travail on change, comment on baisse l'assurance chômage, tout ça. Donc là, il faut éventuellement même des négociations avec les partenaires sociaux, pour ce qui concerne l'assurance chômage. Et après, il faut que ça passe dans un texte de loi. Ça va au Parlement. Et après, c'est à l'Assemblée, au Sénat, de dire oui ou non, sachant que ce gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et donc, quand Bayrou dit « est-ce qu'il y a un risque pour le gouvernement ?», c'est « est-ce qu'on peut sauter ?». Et la réponse est « oui, évidemment ». Voilà. Donc ça, ce sera très intéressant de voir à l'automne déjà quel projet de loi est réellement présenté, qu'est-ce qu'il y a dedans, peut-être qu'il sera très proche de ce qu'on vient d'entendre ou un peu éloigné, et quelle sera la réponse du Parlement. Voilà. Et là, il peut y avoir, je suppose que ce budget peut passer par 49-3, mais dans ce cas-là, il y a une motion de censure, il y a un vote sur la confiance du gouvernement qui est automatiquement déclenché, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que les socialistes, est-ce que la droite, est-ce que le RN va soutenir ou censurer ce gouvernement, on verra quoi. Beaucoup d'interrogations. Mais à un moment, moi, j'ai eu un... Qu'est-ce qu'il dit le Premier ministre, là ? Il parle de quoi ?
D'impôts. Là, c'est vrai qu'on se sert de de la situation de notre économie pour que on puisse, pour une année, avoir un équilibre meilleur. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de CSG, il n'y a pas d'augmentation ou de création d'impôts supplémentaires.
Oui, ça c'est vrai.
Bonjour, Philippine Robert pour Le Point.
Je ne vous vois pas.
Je suis là. Vous avez parlé d'une contribution sur les plus hauts revenus. Est-ce que vous pourriez préciser un peu votre projet et qu'entendez-vous par plus hauts revenus?
C'est ce dont... Vous savez qu'il y a eu cette année une contribution supplémentaire. Je souhaite examiner avec les commissions compétentes des assemblées comment on peut trouver le meilleur équilibre. Les plus hauts revenus, c'est... Vous avez vu, cette année, c'était, je ne sais pas, de l'ordre de quelque chose, je parle de mémoire, comme plus de 250 000 euros et 500 000 pour d'autres. Hein ? C'est ça ? 500 000, mais il y avait aussi une tranche à 250 000.
Bon, c'est pas grave.
Voilà, le gouvernement... Ouais, d'une seule voix ou de plusieurs voix confirme mes chiffres.
Non.
C'était 250 000 pour une personne seule et 500 000 pour un ménage.
Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Thomas Soulier pour Le Parisien aujourd'hui en France. Vous avez esquissé certaines réformes, certaines par ordonnance, au vu de l'état politique. La lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dites-vous, alors que Gabriel Attal a présenté et a mis en place un plan il y a quasiment 2 ans, jour pour jour.
J'y reviens.
Qui n'a servi à rien. Aussi, sur la simplification, vous dites, alors qu'il y a un texte qui sort en ce moment du Parlement, est-ce que aussi celui-là, vous dites aujourd'hui qu'il ne servira à rien? Pourquoi les Français vous croiraient, vous, alors que les précédents gouvernements promettent les mêmes choses, et ce, depuis 2 décennies?
Parce que votre affirmation est inexacte. Il n'est pas vrai que ça n'a servi à rien.
Bon, ça, c'est du blabla.
C'est un pas.
Je sais reconnaître ça.
Et le pas n'est pas.
Par contre, on va revenir sur un truc-là. On est revenu sur la conférence de presse au bon moment. Quand la journaliste lui a demandé, la contribution sur les plus hauts revenus, vous avez parlé là, de quoi s'agit-il? Et en fait, c'est un peu déceptif. Parce que quand il a dit, les plus fortunés, on va se pencher sur une contribution de solidarité, je pensais que ce serait quelque chose de nouveau. Or, voilà, ce qu'il vient d'évoquer à l'instant, répondant, ce n'est que la reconduction d'une mesure qui a déjà été mise en place l'an dernier, sur le budget précédent, une contribution sur les plus hauts revenus, qui existe déjà. Hein, ne mélangez pas tout. Certains parlent d'un patrimoine de 250 000 euros. Non, c'est sur des revenus. Et on va vérifier d'ailleurs le 250 000, 500 000 pour voir si c'est trompé ou pas. On va faire contribution revenus les plus élevés et 500K. Et voilà, on devrait trouver ça en 2 secondes. Voilà. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Voilà, vous trouvez ça en 2 secondes. Alors, ça, c'est déjà en place l'an dernier. Enfin, cette année, si vous voulez. Hein, ça a été proposé dans le budget 2025, donc c'était pour cette année-là. Et en fait, ça n'est que la reconduction de ce truc. Ça n'est pas un nouveau truc. Voilà. Donc ça, c'est un truc que le président Macron avait souhaité en estimant qu'il fallait que les plus hauts revenus, enfin, en tout cas le gouvernement... voilà. Et donc c'était... Voilà. Pour le coup, Bayrou ne s'est pas trompé, mais il a un peu hésité. Si votre foyer fiscal, si votre revenu fiscal de référence... Et de 2, c'est revenu et pas patrimoine comme je l'ai vu dans le chat à l'instant. Et de 250 000 euros, si vous êtes tout seul, si vous avez 250 000 euros de revenus sur l'année, si vous êtes tout seul, ou 500 000 si vous êtes en couple, eh bien, il y avait une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Voilà. Donc moi, je peux pas vous dire de combien, puisque je ne suis pas concerné, contrairement à ce que disent certaines mauvaises langues. Oui, on est sur des bons revenus, ouais. Ah bah, quel est le taux? On l'a là. Le taux, voilà, entre, si vous êtes un célibataire et que vous gagnez entre 250 000 et 500 000 euros, vous avez 3% d'impôts en plus par rapport à ce que vous payez déjà, si je calcule bien là, le taux. Entre 500 000 et 1 million, 4%. Et plus d'1 million, également 4%. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Ici, vous avez l'imposition supplémentaire pour les couples. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, qui était pour cette année-là. Et d'après ce que je viens d'entendre de la réponse du journaliste, c'était extrêmement intéressant. Eh bien, en fait, ils réfléchissent à reconduire cette contribution qui devait être exceptionnelle. Non, mais 4% en plus, bah, quelqu'un me dit 4%, c'est que dalle. C'est 4% en plus de ce qu'ils doivent déjà. C'est pas 4%. C'est, vont pas, les gens qui gagnent 500 000 euros par mois, ils ne vont pas payer 4% d'impôt. C'est 4% en plus, les chouchous. C'est un impôt en plus. J'adore quand même, quand même. Non, les gens, normalement, ici, sauf optimisation fiscale, dans cette tranche-là, les gens, ils sont sur un taux marginal d'imposition de 41% ou de 45%. Donc, avec les tranches d'avant, ils ne sont pas taxés à 41% ni à 45%. Vous savez, c'est progressif, l'impôt. Donc, en gros, c'est les gens qui payent un gros tiers d'impôt sur le revenu, quoi, du 35%, du 33%, ça dépend à quel niveau ils sont, effectivement. Quoi. Et donc, on rajoute 4% en plus. Voilà. Donc, alors, on peut estimer que ce n'est pas assez, mais ce qui est décevant, c'est que ça n'est pas une nouvelle contribution. C'est, a priori, il réfléchit à la reconduction de ce truc. Donc là, on a une pression qui était assez intéressante. Voilà. De toute façon, ça concerne assez peu de gens, je crois. On parle de 16 000 foyers en France concernés par ça. Et puis oui, tu as raison, Miakara, on a été interrompu tout à l'heure, je suis passé du coq à l'âne à autre chose. Effectivement, une des annonces les plus fortes ici, c'est les deux jours fériés supprimés. Pour le coup, ça va rapporter de l'argent. Deux jours fériés supprimés, donc le lundi de Pâques, pensé pour tous les chocolatiers. Et le 8 mai, voilà. Donc ça, c'est deux jours où la France va travailler. Et ça va créer de la richesse. Parce que forcément, sur ce travail, il y a des charges sociales, de l'IR. Voilà. Donc là, ça... quelqu'un a fait... Oui, payez quand même. Oui. Oui, payez quand même. Oui. C'est pas un jour où je travaille gratuitement. Mais pas en supplémentaire, non. C'est un jour normal, quoi. Voilà. C'est des jours où tu seras payé. Si tu es salarié, si tu as la chance d'avoir un travail, déjà. Si, il sera payé, quand même. Si. C'est juste que, du coup, ça dégage de la richesse. Et il y a des cotisations sociales dessus, de l'IR, voilà. Mais c'est deux jours que les entreprises ne vont pas avoir à te payer à ne pas travailler. En revanche, c'est surtout pour les entreprises et pour l'État que c'est intéressant. C'est officiel, ça, c'est déjà décidé. Eh ben non, il faut que ce soit voté maintenant par le Parlement. Hein ? Ce n'est même pas un texte de loi, ça n'est même pas un projet de loi, c'est juste un discours, c'est juste une annonce. Voilà, ça, c'est une des annonces les plus précises, finalement. Quelqu'un me dit que le journal Le Parisien a fait le calcul, ça rapporterait combien, 2 milliards et demi ? Alors, attends, jour férié, milliards. On va essayer de trouver cette info. Demain, si je gagne 500K, je serai deg de filer 250K à l'État. Mais si tu gagnes 500K, tu ne fileras pas 250K à l'État. En France, c'est normal d'ailleurs, parce que tout le monde ne paye pas l'impôt et tout le monde n'est pas concerné par des revenus comme ça, hélas. Mais il faut comprendre que l'impôt, c'est progressif. Je vais vous montrer ça, parce que c'est un plein de trucs que les gens ignorent. Je vais vous montrer un truc. Mais d'abord, je vais essayer de regarder combien ça pourrait rapporter, ce truc. C'est marrant parce que c'est un truc, là, les gens ne... Enfin, les gens, parfois, les gens ne savent pas comment l'impôt fonctionne en France. L'impôt sur le revenu. Hein. Parce qu'après, il y a la TVA, il y a plein d'autres choses. Voilà. Je crois que Le Parisien a fait le calcul. Tais-toi la pub. Voilà. 2,4 milliards d'euros par an. Un jour férié. Donc 2 fois 2. On est sur 4,8, presque 5 milliards. Samuel, est-ce que je peux faire l'hélicoptère ? Pas tout de suite, on est sur le budget. 5 milliards, c'est pas rien. Et ça rapporte des sous quand même. Ok. Alors, je reviens comment marche l'impôt sur le revenu en France ? Alors, tranche, impôt, voilà. C'est par tranche. quand tu gagnes 500 000 euros, tu ne donnes pas 250 000 euros à l'État. Je vais t'expliquer. On va aller sur le site des impôts. C'est tout simple, en fait. Vous allez voir, c'est tout simple à comprendre. Barème de l'impôt sur le revenu. Voilà, ça, c'est actuellement en France. Si tu gagnes moins de 11 497 euros d'impôts par an, c'est par an, tu ne payes pas d'impôts, 0%. Voilà. Si tu gagnes entre 11 500 en gros et 29 315, tu payes 11%. Pas 11%, imaginons que tu es à 29 000 euros. Pas 11% des 29 000 euros. Non. 11% de ce que tu gagnes entre 11 000 et 29 000. Sur ce que tu as gagné avant 11 000, tu es toujours à zéro. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne payes pas 11% de 29 000. Tu payes 11% de la différence entre 11 000 et 29 000. Hein, et tu payes 0% sur ce que tu gagnais jusqu'à 11 497 euros. Et en fait, c'est comme ça pour chaque tranche. Si tu gagnes entre 29 000 euros et 83 000 euros, tu vas payer 30% d'impôts. 30% de tes revenus entre 29 000 et 83 000. Sur tes revenus de 11 000 à 29 000, tu ne payes que 11%. Mais je sais, mais les gens me disent « Ah purée, je ne savais pas ». Mais oui, mais il y a plein de gens qui l'ignorent. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, pour aller à la tranche la plus haute en France, donc 45% d'impôts sur l'IR, les gens qui gagnent plus de 180 000 euros par an, hein, c'est du revenu net imposable, je ne sais plus comment on appelle ça là. Tu as ça, quelqu'un me dit que c'est calculé sur le net imposable, qui n'est pas tout à fait le net. Merci la France, c'est un peu compliqué. Mais bref, vous avez ça sur votre feuille de paie. Voilà, le net imposable, le net avant impôt, bien sûr. C'est du net imposable. Mais non, vous n'êtes pas stupide, dit Xintin, pas du tout. C'est juste qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Et donc, les gens qui gagnent plus de 180 000 euros sont imposés à 45%. Écoute, le séditieux, c'est super simple. Mais uniquement sur chaque euro qu'ils gagnent au-delà des 180 000. D'accord ? Donc, par exemple, imagine tu gagnes 200 000 euros. Eh bien, tu vas être imposé à 45% sur 20 000 euros. Les 20 000 euros qui dépassent la limite des 180 000. Donc, sur tes 20 000 euros qui te font aller de 180 à 200, tu vas payer donc 45%, donc quasiment la moitié. Ok ? En revanche, sur tout l'argent que tu as gagné avant, tu vas être imposé aux tranches précédentes. Ce que tu as gagné entre 83 000 et 180 000 ne va pas être imposé à 45, mais à 41%. Ce que tu as gagné entre 29 000 et 83 000 ne va pas être imposé à 45%, mais à 30%. C'est pour ça que quelqu'un qui gagne très bien sa vie, qui a la chance d'avoir un salaire de ce qu'on a évoqué, là, 250 000 euros par exemple, pour une personne seule, en net imposable avant l'impôt, eh bien, tu ne vas pas payer 45% d'impôt. Tu vas payer aux alentours de 30%. La louche, je te fais ça à la louche. Voilà. Parce que c'est des tranches progressives. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui l'ignorent, ça. Voilà. Et il y a un abattement de 10%, oui. Il y a un abattement par ailleurs, un abattement pour tous les salariés de 10%, oui. Par ailleurs, oui. C'est aussi ça qui diminue l'IR. Voilà. Et donc, pour revenir à... Qu'est-ce que les gens très riches vont payer en France de plus avec Bayrou ? Bah là, pour vous répondre, rien. Puisqu'il a juste dit que la contribution exceptionnelle actuellement en cours, qui n'est lancée que depuis cette année, va peut-être être reconduite. Comment ? On va voir, voilà, tout. Il n'y a pas de taxe Zucman, ce genre de choses. En tout cas, ça n'a pas été annoncé, quoi. Tout ça pour arriver à ma conclusion, parce que je m'approche doucement de l'heure où je vais devoir me préparer pour le dîner familial. On profite de ces vacances en Corse pour... réunir un peu la famille, voilà, du côté des laines, de mon côté, on en profite un petit peu, les grands-parents, les frères, les sœurs, tout ça, c'est tout sympa. Et donc, ma conclusion, c'est que le Premier ministre François Bayrou a essayé de dramatiser pendant une demi-heure la situation de notre pays. Et c'est vrai que budgétairement, c'est pas foufou. Enfin, on n'est pas le seul pays au monde à être dans cette situation-là. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant, cette dette très importante et cette charge de la dette chaque année qui augmente chaque année. Ça nous donne moins de marge de liberté. Et puis ça pose des questions sur même les générations futures avec cette charge de la dette. Bon, c'est un vrai truc. Alors, donc, il en met une couche là-dessus pendant 20 minutes. Et du coup, on attend des annonces fortes, quoi. en mode bah, moi je vais m'occuper de ça et je vais m'occuper de cette dette. Un, non seulement il n'annonce pas la réduction de la dette, mais il annonce la fin de la hausse de la dette, ce qui n'est pas la même chose. Et deux, il annonce des trucs, mais qui sont des, pardon, hein, mais des petits pansements, des trucs un milliard par-ci, par-là. Parfois, c'est même pas calculé. Parfois, c'est un peu flou. On va voir. C'est un peu déceptif. Voilà. Et je serais surpris, mais je peux me tromper, que les journaux disent autre chose demain. Les journaux, ça va être d'autres journalistes que moi. Je ne pense pas que l'analyse sera très différente. On verra Le Figaro, on verra des journaux qui n'ont pas la même ligne éditoriale, qui ne sont pas d'accord entre eux. On verra Libération, on verra Le Figaro, on verra L'Humanité, on verra L'Opinion, on verra Les Échos, on verra Le Parisien. Mais je serais surpris que les journaux disent autre chose que c'est un peu décevant, déceptif. Mais voilà, je me trompe peut-être. Voilà. Donc rendez-vous demain dans la matinée d'Étienne. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. J'ai remercié aucun sub de ce stream et je m'en excuse. Jean Casse-Fesse. Oh oui, l'histoire des Cannes, c'était très drôle. Jean Casse-Fesse, joli. Grolmage, Kind, Sir Fifoufre, comment va-t-il ? Sir Fifoufre, pardon. Rick Lecoul, Prix, Bloody Mary, Ri, Ticlem, Gironte, Un homme lent. Et plein que j'ai raté. J'arrive pas à remonter. Merci beaucoup. Et à tous les autres. Demain, c'est vers 9h. À un moment, il a quand même dit, là c'était super cheap, il a quand même dit, Bayrou, bon, les gars, le matériel qui sert pour les personnes un peu qui ont du mal à se déplacer, là, les cannes, bon, je pense qu'il parlait des fauteuils aussi, tout ça, quand les gens n'en ont plus besoin, et il dit, normalement, quand ils disparaissent, quand les porteurs de cannes ont canné, hein, il faudrait quand même pouvoir les récupérer pour que ça reserve. Il l'a dit. Franchement, est-ce que c'est avec ce genre d'économie qu'on va sauver la France, quoi ? On part de genre, je suis le général de Gaulle, je vais sauver la France, vous allez voir ce que vous allez voir, à les gars, les petits vieux qui ont canné, il faudrait quand même récupérer leur canne. Un peu déceptif. C'est un peu déceptif. C'est pas fou. Dis donc, mamie, ton déambulateur, là, tu penseras bien à le rendre, hein, quand on n'aura plus besoin. Non. Je suis pas sûr. Voilà, donc on verra demain matin. Le Cangate. Non, c'était un peu cheapo, ça. Yes, we can. Joli. Hein ? Voilà, bon, c'est pas fou. Moi, je m'attendais. J'avais fait un espèce de. Je m'étais dit, Bayrou, s'il veut jouer un coup politique. Mais peut-être que c'est moi qui suis pas assez raisonnable. Bref. Il annonce des dingueries. Il annonce des économies de fous, des réformes radicales, avec des économies de fous. Voilà. Il fâche tout le monde, quoi. En mode, voilà, moi je vous dis la vérité. Moi je vous dis qu'on vit au-dessus de nos moyens. On peut pas, on peut plus, pour des raisons X et Y, faire vivre l'État français sur ce train de vie. Et moi, je vous annonce des réformes radicales. Voilà. Après, évidemment, c'est pas voté au Parlement, voilà, puisqu'il n'a pas de majorité. Et après, il peut prendre à témoin l'opinion et l'histoire en disant, vous voyez, j'ai dit la vérité aux Français et on m'a puni, on m'a viré, motion de censure, j'ai dégagé. Et après, il joue un peu là-dessus pour la prochaine présidentielle, sachant que à chaque présidentielle à laquelle il s'est présenté, parce qu'il s'est présenté à beaucoup de présidentielles, eh bien, il a déjà joué à chaque fois cette carte en fait de la rigueur. Et le jour où il est au pouvoir, parce que là, il est à Matignon, il est Premier ministre, ce qui est pour lui une forme d'accomplissement d'ailleurs, puisque en fait, bon, Bayrou, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme politique, c'est sa vie, quoi. Le jour où il est au pouvoir, lui qui a fait tant de, qui a tellement joué sur la rigueur lors des dernières présidentielles, eh ben, il annonce un truc qui fait pchit un petit peu. Je trouve. Peut-être que je me trompe. Voilà. Donc on verra demain matin. Merci Gacor. Ah, alors j'ai fait une erreur sur les cotisations sociales en disant qu'il y aura plus de cotisations sociales lors des jours retravaillés en plus, et c'est faux, et Gacor me débunk à l'instant. Gacor, c'est extrêmement précis, merci à toi. Bonjour, les jours fériés sont cotisés comme les jours chômés. En fait, les jours fériés sont cotisés comme les jours chômés. Voilà. Pour la plupart des salariés, hors salariés au réel. Donc les cotisations sociales ne vont pas augmenter avec ces deux jours de travail en plus, merci à toi. En revanche, effectivement, il y aura production d'argent pour les entreprises, donc plus de chiffre d'affaires. Le gain sera sur l'impôt sur les sociétés si l'entreprise en paye. Le seul cas qui pourrait augmenter les cotisations sociales, ce serait si les salaires sont augmentés suite à ces deux jours en plus. Merci pour cette précision. Voilà. OK. Mais il y a le PIB qui va augmenter aussi, parce qu'il y a la création de richesses quand même, en plus de l'IS. Du coup, tu disais que ça allait être voté à l'Assemblée quand ? Bah, à l'automne, à la reprise de la session parlementaire. À l'automne, ouais. Mais les salaires ne monteront pas ? Bah non, parce que tu étais déjà payé en jour férié. Le gain sera surtout pour les entreprises et non pour réduire la dette. Oui, ah oui, 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 c'est vrai. Oui. Ouais. Mais l'IA, ouais, l'IA va nous sauver. Ouais. Il y a eu ça aussi un moment sur l'IA, ouais. Du bénévolat encore pour notre tronche. Oui, remarque, oui, parce qu'en jour férié, vous étiez payé déjà, les salariés. Donc là, vous avez travaillé. Ah ben oui. Oui, parce qu'en fait, sur le 8 mai et le lundi de Pâques, on est d'accord que si vous ne travailliez pas, vous étiez payé. Et oui. Et là, vous avez travaillé. En étant payé, mais comme avant, quoi. Ah bah oui.
C'est pour votre gueule.
C'est pour votre gueule. Autant pour moi, ouais. Eh oui. Eh oui. Eh oui, c'est pour votre gueule, je pense. Ouais. Bon, les amis, merci d'avoir été aussi nombreux. C'est fou, ça fait plaisir. Je suis surpris que l'ami Jean Massier, qui vous aurait fait ça encore mieux, même si c'est une passion commune qu'on a pour ces questions-là, n'ait pas été en live. Je ne sais pas pourquoi Jean n'a pas streamé, mais j'ai une pensée pour lui, parce que lui qui se passionne pour la vie politique et la vie parlementaire vous aurait proposé un décryptage d'une immense qualité, et je ne crois pas qu'il ait streamé, l'ami Jean. J'espère que tout va bien, peut-être qu'il est peut-être en vacances tout simplement. Il est en vacances. Voilà. Bon ben voilà. Bon, en tout cas, je pense à lui parce que c'est un garçon formidable. Et Hugo était là. Hugo Perchoir, très bien. Et bon, salut l'ami Hugo aussi, et c'est bien qu'il y ait des streamers qui s'intéressent à tout ça. Merci d'avoir été aussi nombreux, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si nombreux. On se retrouve demain matin pour peaufiner un peu ces analyses. Peut-être que j'ai dit des bêtises cet après-midi, ce soir, et qu'on va débunker ça demain. Ici, on est sur Twitch, on est là pour s'entendre, se parler, s'écouter. Et quand je dis une bêtise, eh bien on la débunk ensemble, comme on l'a fait deux, trois reprises ici. Quand le Premier ministre dit une bêtise, ça lui est arrivé une fois, je crois, au moins, eh bien on le débunk aussi, c'est l'intérêt de Twitch. Et eh bien on continuera demain matin. Merci beaucoup, on se retrouve à 9h. Prenez soin de vous et puis on va faire un petit raid plutôt. Bon, le mec il veut live tout le temps, quoi. Qui est en live actuellement là? Vous êtes très nombreux, donc c'est un très très beau raid.
J'avoue, t'as un peu.
Ok, alors là j'ai envie de raid un ami avec qui je dois jouer bientôt au mode zombie de Call of Duty, l'ami Gotaka qui est venu dans Simplay, qui nous a fait découvrir l'univers de Call of Duty et à qui je dois rejouer en mode zombie. C'est quelqu'un de chaleureux, de sympathique, c'est une belle personne et il est justement sur les Worlds de Warzone actuellement. On va voir l'ami Gotaka. Je vous dis à demain matin. J'ai lancé ou pas là? Je ne sais même pas. J'ai lancé là? Je ne sais même pas si j'ai lancé. C'est lancé là, je sais même pas ce que je sais plus. J'ai lancé. C'est parti, pas encore. C'est en train de charger ou pas? Hop, alors je charge. Hop, Gotha. Hop. Pourquoi ça marche plus? Attendez, bougez pas, je vous le fais tout de suite. Déjà, ce matin, ça a bugué comme ça. Ah ouais, il y a un petit bug. Bon, on va le faire à la main. On va faire slash raid. Déjà ce matin, ça a bugué. Allez, Red Gotaga, normalement ça part là. Voilà. Ce matin, il y avait un petit bug. Voilà, c'est en train de charger. Merci, bonne soirée, prenez soin de vous, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. À demain matin pour l'actualité, on reviendra notamment sur ça. On lui dit quoi de ta part ? Dites-lui bonjour de ma part et dites-lui que j'espère refaire des trucs avec lui très bientôt. C'est parti. Ciao les amis. C'était top, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, vraiment c'était super.
Il voit beaucoup de choses. Il voit beaucoup de choses. Bonjour, salut tout le monde. Vous venez d'où les gars ? Ça vient d'où ? Salut, salut. Oh, il y a une émote. Il y a une émote Samuel. Samuel, ok. Comment il va celui-là ? Comment il va celui-là ? Alors, je vous préviens les gars, Samuel vous a envoyé sur un potentiel... Enfin, un potentiel non, hein.